Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes le 8 mai 2016 et vous écoutez le 76e épisode de Proxy Jeux. Je suis Cyrus et cette nuit, car il est minuit et demi, nous allons aborder un format spécial rempli de billets d'humeur qui se déroule pendant le week-end Proxy Jeux. Alors, je vais autour de la table, Flavien.
Moi, je vais vous accompagner, je vais vous dire que Time Stories, c'est génial.
Merci Flavien pour cette magnifique remarque. J'ai également autour de la table Guilin.
Moi, je vais vous emmener du soleil et de l'accent.
Guilin Courju.
C'est lui.
Qui est notre d'ailleurs préféré. Et Siol.
Eh oui, c'est moi. Ben, j'avais plus d'ordi, donc plus de chronique jeu de rôle parce que je joue plus. Et, mais sinon, ben, là, je vais vous parler de Race for the Galaxy et puis peut-être autre chose.
Bien sûr. Donc Siol qui fait son grand retour ce soir avec nous, c'est un grand plaisir de t'avoir à nos côtés.
Merci.
Alors on remercie la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Alors pour ce premier billet d'humeur du week-end Proxy Jeux, on a donc Courju et Siol qui vont nous parler de...
Race for the Galaxy ?
Keep Talking ?
Ah non, pas tout de suite.
Pas tout de suite.
The Keep Talking and Nobody Explodes.
Qui n'est pas un jeu de société,
qui
en fait.
Ah, justement, on va en parler. On va en parler. C'est un jeu qui est disponible à 15€ sur Steam. Là, vous dites, mais Steam, quel est cet éditeur problème. Je connais Asmodée, je connais Starry, mais Steam. Et en fait, c'est un jeu de Steel Crate Games, donc il y a un éditeur développeur.
Si Steam, je connais le jeu. Hein.
Ouais, ah oui. Steam, ouais, très bon jeu par ailleurs. Voilà. Mais... Et donc c'est un jeu numérique qui, on va en parler, mais qui a aussi un aspect physique. Et l'un va avec l'autre. Donc 15€ sur Steam, donc Steel Crate Games, et uniquement en anglais, la version française, vous la trouvez en traduction non officielle en cherchant sur Google voilà, Keep Talking and Nobody Explodes, version française.
Ouais. Parce que là, alors c'est pas l'application que vous allez trouver en version française, mais des fichiers à télécharger.
Ouais.
Alors vous nous expliquez un
Parce
peu
que
en quoi ça consiste.
Sur l'application, ouais, on trouve quoi.
Donc en fait, c'est un... C'est vendu comme un jeu vidéo, mais dans lequel les différents joueurs, puisque c'est un jeu multijoueur, ne vont pas jouer chacun derrière leur PC, mais ensemble autour d'une table, l'un des joueurs étant devant le PC, et les autres joueurs étant assis juste à la table, mais avec pas d'écran, juste des feuilles de papier.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les autres joueurs ne voient pas l'écran, de celui
et
qui est devant
ils
le
l'ordinateur. Ils n'ont pas l'impression de jouer à un jeu vidéo. Le concept est vraiment très proche des jeux de société qui utilisent du numérique. En fait, là, c'est l'inverse. C'est un jeu vidéo qui utilise des concepts du jeu de société. Donc, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont essayer ensemble de désamorcer une bombe. Le joueur qui est devant l'écran voit la bombe et peut la manipuler, et les autres joueurs, eux, ne voient pas la bombe, mais ils ont la documentation, ils ont le manuel, et donc ils ont toutes les explications sur comment désamorcer la bombe. Donc c'est à la fois un jeu de communication, et puis un petit peu un jeu de logique, et de gestion du stress surtout.
Surtout.
Et donc le joueur qui est devant l'écran, lui, va devoir décrire ce qu'il voit aux autres joueurs, qui peuvent prendre des notes éventuellement, mais surtout qui vont regarder le manuel, et du coup essayer de guider le démineur et de lui dire ce qu'il doit faire pour désamorcer cette bombe, en temps limité bien sûr.
Alors du coup vous avez joué ce week-end à ça?
Ouais, on a joué. Alors ce qui est bien c'est que ça peut se jouer à 2, à 3, à 4, à 5, autant qu'on veut en fait. Plus on est nombreux et moins il y a de stress on va dire, parce que du coup chacun des joueurs qui sont avec le manuel papier peuvent se concentrer sur un aspect. Ceci dit, le temps est toujours le même et pour le démineur, le stress est toujours le même.
Et Siol, toi, tu y as joué même avant le week-end ?
Oui, en fait, j'ai découvert la semaine dernière pendant les vacances. Tout simplement, c'est assez fabuleux parce que c'est vraiment de la communication entre les joueurs qui peuvent regarder la bombe, parce qu'on peut très bien aussi être plusieurs derrière l'ordinateur, et ceux qui sont en train de feuilleter leur manuel pour chercher si on parle des fils ou si on parle d'autres choses. Parce qu'en fait, sur une bombe, on va avoir plusieurs types de modules et il faut désactiver tous les modules pour désamorcer la bombe. Et en fonction de la difficulté de la bombe qu'on a lancée, les modules seront différents et plus ou moins compliqués et même plus ou moins nombreux.
Donc il y a une notion de niveau en fait.
Complètement. Il y a...
En fait, la difficulté augmente soit parce que le chrono est plus court, ou il y a plus de choses à faire sur la bombe, ou les choses à faire sur la bombe sont plus complexes. Ouais. Et on arrive dans les niveaux les plus élevés où, pendant que les experts cherchent dans le manuel, la personne qui est devant la bombe doit aussi régulièrement interagir avec la bombe juste pour remettre à zéro un compteur, des choses comme ça. Et du coup, elle a toujours le stress quand elle est en train de faire ce que lui ont demandé les experts. En même temps, elle doit vérifier aussi que sa bombe n'est pas en train de surchauffer ou autre chose.
Là, tu as été beaucoup plus loin que moi parce que nous, on n'en est pas encore là.
D'accord.
Courju, tu parles de niveau de difficulté. Tu as un scénario où c'est vraiment juste de l'application vraiment logique et technique sans réelle histoire, ou bien tu as une histoire méta ou pas d'histoire du tout?
Il n'y a pas du tout d'histoire méta. C'est juste présenté de façon un peu sympa. C'est-à-dire c'est présenté dans un univers en 3D. La bombe, on peut la manipuler en 3D. D'ailleurs, quand ils ont fait un peu le marketing de leur jeu au départ, ils l'avaient présenté pour être joué en VR, ce qui fait que du coup, le démineur, il est vraiment dans une bulle avec son casque de VR. Il voit la bombe, il peut bouger sa tête, il peut manipuler la bombe.
Ouais.
Et du coup, il est encore plus en situation, encore plus en stress. Bon, moi, j'ai jamais joué en VR, mais ça peut en effet être sympa. Mais ils ont juste, on va dire...
VR,
mis
pardon,
du...
c'est...
Ouais, de la réalité virtuelle avec un casque. Un casque pour entre guillemets voir en 3D, mais surtout ça met dans une bulle fermée, et ils ont juste voilà rajouté un peu de d'effet d'ambiance, genre il peut y avoir une alarme qui se met à sonner d'un coup, on sait pas ce que c'est, ou la lumière peut s'éteindre, mais il y a pas d'histoire en tant que telle, quoi.
Il y a le réveil par exemple qui se met à sonner, qui sert à rien, mais
ouais. Ça sert à rien, mais il faut appuyer dessus, voilà.
Et t'avais parlé d'un mode free to play aussi, je crois.
Ouais, c'est ça, enfin pas free to play, un mode tu choisis play, toi-même ta difficulté. En fait, il y a un système d'enchaînement avec un tutoriel au début, puis des scénarios de plus en plus difficiles. Et ensuite, il y a un mode où tout simplement tu choisis ta difficulté, combien tu veux de modules, quel chrono tu veux, et est-ce que tu veux tel ou tel type de module ou pas. Genre, s'il y en a que tu supportes pas, tu peux les désactiver. Et voilà, donc tu construis ta propre expérience de jeu, quoi.
Ta propre bombe. Rendre la désamorcée.
Alors, un exemple de module que tu supportes pas.
Ah, que je ne supporte pas. Alors, très simplement, c'est un module où il y a un écran qui nous affiche un petit texte. Et en dessous, il y a 6 boutons avec chacun un petit texte dessus. Alors déjà, en fonction de ce qui est affiché sur l'écran du haut, les experts vont nous indiquer, donc ceux qui ont les manuels, vont nous indiquer l'un des 6 boutons. Il faut leur lire ce qu'il y a écrit sur le bouton.
Et surtout pas cliquer dessus.
Et surtout pas cliquer dessus, tout à fait. Et eux vont devoir tourner une page et aller chercher dans une liste ce petit bouton. Et ils vont nous lire une liste de mots. Et il faut qu'on trouve le bouton qui correspond à la liste. Sauf que il y a des UU, alors HU, plus loin HU, d'autres UU, HUH, UH, et puis il y a des YUR, des YUAR, des ER, des Z, des ZEAR, enfin bref, il y a
ça
des trucs qui...
Ça passe peut-être mieux pour les anglophones. J'en
suis même pas sûr.
Non,
mais en tout cas, avec des accents franchouillards, ça...
En fait, c'est tout
bien.
Le contraire. C'est plus facile pour des Français, parce que moi, j'ai vu jouer des Anglais. En fait, le problème qu'ils ont, eux, c'est « what do you see ?» Et le problème, c'est que les mots « what » et « see », ils font partie des mots.
Exactement, des mots-clés qui sont dessus. Oui.
« Look at the world on the right side » et « right », c'est un des mots.
«
Look », c'est un des mots. Enfin, et du coup, les mecs, c'est super dur pour eux parce que tous les mots qu'ils utilisent pour communiquer, ils font partie de la liste des mots. Donc forcément, c'est source d'erreur.
C'est à peine fait exprès, quoi.
Ouais, bien, oui, forcément. Et du coup, ça mériterait presque
de traduire les boutons
de
pour
localiser. Parce que la traduction du manuel, elle permet de jouer au jeu. Mm-hmm. Le jeu lui-même, sur le jeu vidéo, il n'y a pas de... C'est pas language dependent, quoi. Il n'y a pas de dépendance. On peut jouer au jeu en version anglaise. Mais par contre, typiquement, ce puzzle-là mériterait clairement d'être localisé en français pour... coller plus
pour,
à la thématique,
pour la
vraie
la
difficulté
soit réelle, quoi.
C'est
okay.
Ça.
Voilà.
Il y a un intérêt des deux côtés, du coup, Siol ?
Alors, complètement. Parce que le stress est des deux côtés, de toute façon. Du côté de la bombe, on voit les chiffres défiler, on suit ce que nous disent les autres. Il faut essayer de leur expliquer ce qu'on voit. Il y a des modules avec des petits boutons et des symboles dessus, et les descriptions des symboles sont toujours très marrantes. Parce que entre celui qui sait pas ou qui sait que les autres ne savent pas ce qu'est un lambda, faut leur expliquer ce que c'est qu'un lambda. Voilà. Et
encore ça, c'est facile. T'as le droit de l'insulter.
Oh, bah ça peut arriver au bout d'un moment de stress. Quand il reste 30 secondes et que tu attends un 1 avant d'appuyer pour, enfin avant de relâcher le bouton parce que ça va exploser.
Ah, mais c'est vrai que c'est marrant, c'est symbole parce qu'au final, effectivement, on se retrouve à tous les décliner en des. C'est un truc qui ressemble à un 6, un truc qui ressemble à un B.
Alors c'est un sigma, c'est pas un 6, c'est un sigma. Mais bon, je suis le seul à avoir fait grec, donc.
C'est ça, quoi.
Mais en fait, c'est vraiment deux expériences de jeu totalement différentes entre la personne qui est devant l'écran et les personnes qui sont sur le livre. Les personnes qui sont sur le livre, c'est vraiment elles qui vont résoudre l'aspect théorique et logique du jeu. Et la personne qui manipule la bombe, c'est elle qui va devoir un peu driver les autres, surtout dans les niveaux de difficulté un petit peu plus élevés, où la personne qui est devant l'écran, elle va vraiment devoir orienter les autres en leur disant bah, « Toi, tu vas réfléchir à ce problème-là, pendant que toi, tu vas réfléchir à ce problème-là, pendant que toi, je me concentre avec toi sur un problème où on va devoir interagir en temps réel. » Et ensuite, je reviens à la première personne pour qu'elle me donne la réponse à ce qu'elle a cherché pendant ce temps, etc. Donc, il y a vraiment un côté, entre guillemets, meneur de jeu, mais pour une fois, par opposition à certains jeux typiquement, je pense à Donjons et Dragons, le jeu de plateau, le maître de jeu, il n'a pas vraiment l'impression de jouer. Là, clairement, le meneur de jeu, il est en plein centre de l'action, il participe vraiment à l'action, et c'est une expérience de jeu différente, et c'est vraiment une expérience de jeu qui n'est pas du tout... hors de portée entre guillemets, enfin n'importe qui, on peut changer de place à tout moment, puis, ça marche très bien quoi.
Le type qui est devant, le meneur de jeu comme tu l'appelles, c'est lui qui est devant la bombe, c'est lui qui va exploser. Hein. Les autres, ils sont toki-woki, ils sont pas à côté. Hein.
Ouais, t'arrives quand même à créer un semblant de narration mine de rien.
Oui, clairement. Non,
ça, c'est la façon dès qu'on est sur un thème comme ça qui prend à fond, c'est voilà. Moi, je l'ai découvert, j'organise une après-midi jeu la semaine prochaine. C'est thème espion parce qu'on voulait le mettre ce jeu.
Ouais.
Et je sais plus si c'est toi Courju qui parlait de regarder des gens qui jouaient par Skype aussi.
Ouais. En fait, quand je parlais tout à l'heure de l'exemple des Anglais que j'ai vu jouer, c'est une des vidéos que j'ai vues sur YouTube qui m'a donné envie d'acheter le jeu parce que j'ai vu jouer les mecs, donc ils jouent via Skype et clairement ils ont l'expérience de jeu. Qu'on acquiert quand on a joué les 20 premiers scénarios, on commence à connaître les modules par cœur, c'est-à-dire les experts connaissent les modules, le meneur de jeu connaît les modules et donc on se perd plus dans la description des boutons, etc. parce qu'on connaît tous les modules, donc on va juste dire bah tiens c'est le module memory, c'est le module bouton bizarre, c'est le module machin. Et donc les mecs ils jouaient avec un meneur de jeu via Skype qui lui a juste l'application
appelle-le démineur plutôt que meneur de jeu parce que
le démineur ouais t'as raison. Et les autres
ils
ont même pas besoin d'avoir l'écran allumé, enfin ils ont juste besoin de pouvoir se parler
et
vraiment moi je les ai vus jouer et s'envoyer, enfin se diriger, ils savaient que tel expert avait sous les yeux le cahier qui permet de gérer le labyrinthe, tel autre expert il pouvait gérer les fils, tel autre expert les mots de passe, etc. Et donc il arrivait la bombe direct, il donnait toutes les informations nécessaires sur la bombe, bon mais toi tu vas résoudre tel puzzle, pendant ce temps toi aide-moi avec ça, etc. Et vraiment je trouvais que le rôle du dispatcher était vraiment là, super présent, et je me suis dit c'est génial. Et moi j'avais eu toujours l'expérience de jeu à deux joueurs jusqu'à y jouer ce week-end, donc j'avais déjà une bonne expérience de jeu mais que à deux joueurs. Et du coup, l'expert, il passe tout le temps son temps à sauter d'un papier à l'autre, c'est assez dur. Et là, j'ai joué jusqu'à avec 4 experts. Et du coup, c'est vraiment totalement différent. On a vraiment beaucoup plus à dispatcher comme ça le.
Alors, l'inconvénient, c'est que parfois, il y en a qui font rien en fait.
Oui, alors voilà, du coup, l'inconvénient.
Moi, ça m'est arrivé
si on fait ça, il peut y avoir soit des manches où tu fais rien, soit tu fais un truc au début, puis après, pendant tout le reste de la manche, tu fais plus rien.
En même temps, une manche, c'est une bombe. C'est 5 minutes.
C'est 5 minutes maximum. Il y en a qui font 8 minutes, mais c'est rare en fait.
Petite question. Toi qui as joué à deux beaucoup plus loin que moi, je n'ai joué à deux. Ça reste jouable à deux dans des très hauts niveaux.
Très loin à deux joueurs. Alors évidemment, il y a des trucs qu'on a refait vraiment plusieurs fois avant d'arriver à le passer. Mais ouais, c'est clairement jouable à deux joueurs, y compris dans les niveaux de difficulté élevés. Ouais.
Je sais pas si vous avez lu les critiques de sites de jeux vidéo un peu sur ce jeu ou pas.
Pas du tout.
Non, parce que c'est amusant justement le regard différent en fait qu'ils ont de nous joueurs de jeux de plateau. Parce que nous, il y a des choses qui nous paraissent logiques, alors qu'eux, ils en font tout un foin sur des choses dont nous, on a l'habitude en tant que joueurs de ce plateau, de manière générale, et des très très bonnes critiques. Et parce que eux, ça leur procure des sensations totalement nouvelles. Nous aussi, parce qu'il y a le numérique, et c'est vraiment.
Et eux, c'est l'inverse, quoi.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un jeu qui arrive à mélanger les deux. Alors, parfois, on a tendance à mettre en opposition justement le jeu vidéo, le numérique, et puis le jeu de plateau physique. par un raccourci un peu rapide. Et là, c'est vrai que ça arrive à marier le meilleur des deux un petit peu.
Ouais, je trouve que c'est vraiment. Enfin, on parle de plus en plus en ce moment, voilà, avec XCOM, World of Yo, Alchemist et tout ça, des jeux de plateau tels que nous on les connaît, qui utilisent le support numérique pour ajouter du random ou pour ajouter du temps réel ou des choses comme ça. Et là, c'est vraiment, je trouve que c'est encore plus l'alchimie vraiment entre les deux, entre le pur jeu de communication et du vrai jeu vidéo entre guillemets, parce que là, pour le coup, ce qui est de génial. Parce qu'on pourrait imaginer ce truc-là en jeu de plateau avec des cartes, on retourne une carte et puis il faut résoudre ce qu'il y a sur la carte. Sauf que là, c'est généré aléatoirement et donc chaque fois qu'on refait même un niveau scénarisé, entre guillemets, quand on le refait, les modules ne sont pas les mêmes. Quoi.
Ça va bouger beaucoup. Hein.
Ouais.
Et par contre, s'il y a effectivement dans l'autre sens aussi des jeux vidéo qui se rapprochent du jeu de société comme ça, j'en ai vu d'autres. Par exemple, Space Team qui est en application sur smartphone, où c'est aussi un jeu de communication entre deux joueurs, chacun ayant une partie d'un tableau de bord d'un vaisseau, mais les instructions qui apparaissent sur son écran à lui, en fait, il doit les dire à l'autre qui doit le faire sur son tableau de bord de son côté. Et...
Ouais.
Donc là, c'est pareil, on retrouve un peu ces systèmes de communication qui font le propre de beaucoup de jeux de société.
Je mets juste un bémol quand même sur la partie jeux de société. Il y a uniquement la partie communication qui est propre un peu aux jeux de société. Parce que autrement, le gameplay du côté des experts, c'est du casse-tête. Quoi.
Oui,
clairement. C'est la résolution de puzzle.
Il faut en avoir
conscience,
quoi, je veux dire.
Ouais, voilà. Ouais, c'est pas un jeu de société dans le sens où tu vas pas faire une action pour apporter quelque chose ou jouer avec du matériel ou quoi que ce soit. C'est juste un puzzle comme tu ferais un sudoku. Quoi. Mm. Clairement, on est là-dessus. Sauf que c'est des puzzles un petit peu plus rigolos, un petit peu plus subtils, mais globalement, on est sur ce genre de choses. Et en fait, ce qui fait que c'est un jeu de société, là, pour le coup, c'est vraiment le fait qu'on joue en société. Et moi qui ai toujours tendance à râler contre les gens qui disent dans jeu de société, il y a société. Moi, je dis dans jeu de société, il y a jeu. Mais là, clairement, on est dans ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet aspect société, jouer ensemble, bon, bah, la simple résolution du puzzle, elle n'est pas forcément passionnante.
Non,
quoi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce stress, cette communication en direct, etc. Quoi.
Finalement, c'est la perte en ligne qui est rigolote. Quoi. C'est le fait que quand on va communiquer avec l'autre, il y a des informations qu'on va oublier, qu'on va pas donner. C'est ça qui fait le fun du jeu, quoi.
Oui.
Bien sûr.
Ça et évidemment le stress du temps réel, quoi.
Ouais. Et du coup, je pense, c'est vraiment un incontournable à la fois pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux de plateau, enfin les joueurs de manière générale. Donc, dans des soirées jeux, tu mets un.
Après forcément ça a plus de moi je sais que j'ai essayé de l'organiser dans une asso où je vais c'est un peu complexe parce qu'il faut arriver à avoir quelqu'un qui a un PC installer le jeu donc bon moi je l'ai acheté je m'en fiche je peux mettre mon jeu que j'ai acheté moi sur le PC de quelqu'un d'autre mais ça demande quand même une organisation alors que bon un jeu de société t'arrives avec ta boîte tu la poses sur la table tu peux jouer quoi. C'est pas la même organisation
un peu plus d'organisation
ouais.
C'est pas plus d'organisation pour un mec qui fait une LAN quoi.
Non ouais c'est ça.
Voilà ok et vous conseillez ça à partir de quel âge? Je sais pas s'il y a une.
J'ai pas encore essayé avec mon fils de 8 ans, mais je compte bien, par contre, d'abord le mettre face à la bombe, parce que côté des experts, il y a un manuel d'une vingtaine de pages, et il faut tourner les pages vite, et il faut lire vite.
Bah là, on a joué avec un enfant de 12 ans, s'est débrouillé sans aucun problème, voire mieux que des adultes.
Ouais.
Ça lui a posé aucun problème, l'aspect manipulation logique. La compréhension logique des puzzles, et il a mis un moment avant, entre guillemets, d'accepter de se mettre devant l'ordi. Parce que justement, il se sentait plus à l'aise côté je résous les puzzles que côté je manipule et j'ai le stress de. Donc il y a peut-être aussi.
De voir le chrono qui descend.
Et j'ai la responsabilité de la défaite.
Et peut-être, ouais.
Alors non, c'est très facile d'accuser les experts d'avoir été naze. Hein.
Ouais,
très facile.
Et donc, clairement, quand tu joues à deux et que tu perds, c'est en général tout le temps la faute de l'expert. ça arrive que le démineur il fasse une fausse manip ou qu'il donne une info à moitié ce que tu dis, une info un peu fausse, etc. Mais en général, c'est l'expert qui s'est trompé parce que les puzzles sont vraiment très tordus, quoi. Des trucs en fonction de. Il faut regarder des infos qui sont sur le côté de la bombe, etc. Et si t'as pas bien compris, et selon le nombre d'erreurs que t'as déjà fait avant, le puzzle il change. Enfin, c'est quand même assez tordu, quoi. Et donc, c'est facile pour l'expert d'oublier une des composantes du puzzle, on va dire ça, quoi.
Ok. D'autres choses à ajouter sur ce jeu?
Essayez-le.
Ok.
Oui, carrément.
Cool. Merci beaucoup à vous pour cette petite présentation, ce petit billet d'humeur de la soirée.
Avec plaisir.
Et maintenant, on parle de Race?
Alors maintenant, on va garder Siol et on va accueillir Beno et Fitch. Bonjour Beno et Fitch.
Bonjour Cyrus.
Ouais, enfin, je sais pas s'il faut dire bonjour, bonne nuit, bonsoir.
Oula, ben, salut. Ouais, là, bientôt c'est, bonne nuit.
C'est,
hein, on
entre bonne nuit
moi,
et...
joli, hein.
C'est entre bonne nuit et bonjour presque.
Donc Courju nous a laissé et alors Siol et BenoFX, vous allez nous parler de l'extension de Rise for the Galaxy, la toute dernière, qui est Invasion Xeno.
Donc Rise for the Galaxy, on rappelle, c'est un jeu de Tom Lehman, illustré par Martin Hoffman et Klaus Stéphane, et édité en français par Istari Games.
Et si je dis pas de bêtises, c'est la première extension du deuxième arc.
Du troisième arc.
Bah, j'ai dit une connerie.
En fait, je pense que ce sera l'unique extension du troisième arc.
Parce que ça s'est pas vendu.
Non, mais parce qu'ils n'ont pas annoncé comme quoi il y aurait plusieurs.
Elle se suffit à elle-même, je pense.
Oui.
Ok. Alors, Siol, toi, tu... Alors déjà, le Rise for the Galaxy, de base, t'as fait beaucoup de parties.
J'ai écouté Proxy Jeux. Ouais. Et puis, il y a un truc que j'ai pas encore essayé, c'est Few Aircraft Snow. Hein, voilà, avec mon super accent.
Hey Chris.
Et par contre, Rise for the Galaxy, j'ai eu l'occasion d'essayer, je suis tombé dedans, et ma femme est tombée dedans, et du coup...
Ça tombe bien. Hein.
Voilà. ça a été la très bonne surprise du truc.
Tu t'es pris une race.
Voilà. Et du coup, Rise for the Galaxy, on y joue... On a été relativement déçus par
le
deuxième arc.
Ouais.
Là, du coup, j'étais curieux. Et puis, on a eu la chance au week-end Proxy Jeux que quelqu'un amène cette extension. Et l'anniversaire de ma femme étant la semaine prochaine. Bisous, chérie. Ben voilà, maintenant, je suis sûr, on lui achète.
Attends. Tu fais passer des jeux pour les cadeaux de ta femme.
Ben, ouais, bien sûr.
Ça m'a un cadeau ça, intéressé. Et moi, quand je fais ça, je me fais allumer la gueule.
Ah ben moi ça passe très bien. Faut juste taper dans Rise for the Galaxy.
Ouais, moi elle doit pas aimer ça donc.
Alors qu'est-ce que t'as trouvé de bien? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, cette extension?
Déjà cette extension, le principe c'est comme à Rise for the Galaxy, on va construire un peu son petit secteur. Sauf que là il y a des Xeno, donc une race hostile qui va nous attaquer régulièrement. Mm-hmm. Régulièrement, c'est-à-dire tous les tours à partir du troisième tour.
D'accord. Qui attaque tout le monde?
Qui attaque tout le monde autour de la table. Et du coup, ça va rajouter deux nouvelles conditions de fin de jeu qui sont tous les joueurs autour de la table ont perdu deux fois tous en même temps contre les Xeno, ou tous les joueurs autour de la table collectivement alignent force militaire et force d'attaque des Xeno supérieure à la menace des Xeno.
Alors, donc déjà, ça veut dire que tout le monde peut perdre.
Alors, non, parce que non. Si tout le monde se fait raser deux fois par les Xeno, c'est simplement une condition de fin de jeu. Ben, après, on compte les points et on voit celui qui a le plus de points à gagner.
Okay.
Bon, tous ces mondes sont cramés, mais c'est pas grave, il a quand même gagné.
Et, je sais pas si ça arrive très souvent, ça. Parce que là, sur deux parties, on en est quand même assez loin de cette condition
en
fin de victoire.
Sur la première partie que j'ai faite à deux avec Yann pour découvrir l'extension, nous sommes fait raser.
Battre par les Xeno.
Voilà. Donc ça arrive
plus fréquemment à 2 qu'à 4.
Alors ça, après, je sais pas. J'ai 3 parties actuellement à l'actif. Faudra voir avec l'usage.
Alors, et donc, toi, BenoFX, t'avais fait combien de parties du jeu de base?
Alors, pas beaucoup, parce que moi, j'ai personne pour jouer avec moi au jeu de base. Donc, j'avais fait environ 5 parties sur Board Game Arena en ligne.
D'accord.
Donc, avec des gros costauds pour la plupart. Donc, j'avais une sensation du jeu un peu étrange. Déjà, sur le jeu de base, j'avais pas retrouvé la sensation de race, c'est-à-dire que j'avais beau aller assez vite, je me faisais allumer, même si j'étais le premier en fait à déclencher la fin de partie.
De course, quoi. Ouais, de course. Du race de race.
Voilà, c'est ça. J'avais beau déclencher la fin de partie vite, comme pour déclencher la fin de partie vite, il faut mettre des cartes à faible coût. Derrière, ils avaient des cartes de combo, des cartes à 6 qui déclenchaient tout un tas de points de victoire. Et du coup, voilà, mon expérience était assez j'ai beaucoup aimé, mais voilà.
Assez triste.
Assez triste. Assez triste dans les résultats.
En fait, c'est un jeu où... On dit qu'il y a peu d'interaction entre les joueurs, mais en fait, l'interaction, c'est simplement de savoir regarder ce que font les autres joueurs.
Ouais. Mais là, du coup, l'extension, c'était mes deux premières parties, parce qu'on a fait deux parties de suite quand même. Ça prouve qu'on a apprécié, beaucoup cette extension. Et du coup, c'était ma première partie avec un jeu physique, un vrai jeu, et mes premières parties avec l'extension. Et j'ai pris, 10 fois plus de plaisir que mes parties que j'ai faites précédemment.
C'était ton partenaire.
Ouais, c'était peut-être
les
joueurs.
Mes partenaires.
Oui.
Il y en avait 3 quand même.
En même temps. Coquin. Et peut-être d'un point de vue thématique, du coup, tu as ressenti un peu une évolution par rapport au jeu de base, parce que tu parlais d'invasion, etc., donc d'attaque, il y a un sentiment un peu...
La thématique est vraiment là, vu qu'à chaque tour, on va subir des attaques, qu'on peut perdre des planètes si jamais on ne sait pas se défendre suffisamment. Ça pourrait nous inciter, enfin on pourrait penser que ça nous incite, pour ceux qui connaissent le jeu, à faire que des tableaux militaires, mais il y a suffisamment de défense, enfin de bonus qui sont spécifiques Xeno pour par exemple se faire tout simplement un tableau de production, mais avec des bonus de défense contre les Xeno.
D'accord.
Auquel cas on ne contribue pas vraiment à aligner une grosse flotte de guerre contre les Xenos, mais on se contente de se défendre quand ils attaquent.
D'accord.
C'est ce que j'ai essayé de faire sur la deuxième partie. Donc j'ai pas gagné, mais j'étais deuxième sur quatre, donc en faisant vraiment que de la défense. Faut savoir qu'il y a un système de bonification à chaque attaque. Si on arrive à passer l'attaque, c'est-à-dire que si on ne se fait pas détruire une planète, les trois premiers qui ont survécu à l'attaque gagnent un point de victoire, et le dernier, donc celui qui a le moins de force, et qui, s'il résiste à l'attaque, il a deux points de victoire.
Voilà. Sachant qu'on ne se prend pas tous exactement la même attaque. On va sortir une carte d'attaque par joueur, et le plus fort en militaire va se prendre le plus gros de l'attaque, et ainsi de suite en descendant jusque le dernier qui se prend la plus petite attaque qui des fois
un phénomène d'équilibrage assez
c'est très
normal,
très équilibré mais... oui.
Ouais, c'est très bien équilibré, et il y a d'autres bonifications aussi qui vont avec l'extension à la fin de la partie. En fait, celui qui aura la plus grosse armée, donc qui aura combattu les plus de Xeno, a une bonification de 5 points.
Et le grand amiral.
D'accord. Et celui qui aura participé le plus à l'effort de guerre, puisqu'il faut savoir qu'on peut défausser des ressources à la phase de production pour baisser en fait la force des Xeno. Celui qui a le plus défaussé de ressources pour baisser la force des Xeno a aussi une bonification de 5. C'est 5 aussi.
C'est 5 participation aussi à l'effort de guerre. Oui.
Voilà. Donc c'est les deux bonifications qu'il y a à la fin de partie en plus, qui est assez intéressant parce que finalement 5 points sur des parties qui se terminent entre 30 et 40.
Ouais, c'est pas mal,
ça fait tout de suite quelque chose d'intéressant.
Ah, effectivement.
Bon, après, il faut voir que ces bonifications-là, on ne les a que si les Xenos ne nous auront pas rasés.
Oui, il faut arriver au bout de l'invasion.
Et alors, en termes de cartes, parce qu'en fait, donc ça, si je ne dis pas de bêtises, ça se rajoute avec le jeu de base uniquement.
C'est ça.
Je pensais
c'est
même
l'idée.
Principe pour l'arc 2.
C'est ça.
Lui aussi est tout seul. Enfin, il n'y a qu'une extension pour l'arc 2. Dans l'arc 2, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur l'orbe. Donc moi, personnellement, j'ai jamais essayé, en fait.
En fait, l'orbe, je l'ai essayé, et l'une des grosses critiques que je lui fais, c'est que ça alourdit énormément le jeu. C'est-à-dire qu'à deux joueurs qui connaissent très bien le jeu, sur un jeu classique, on va dire, on fait des parties en 20 minutes. Avec l'orbe, même en ayant fait plusieurs, donc en ayant déjà une connaissance des mécaniques et une maîtrise du système, on partait sur des parties d'une heure, une heure et demie.
Ah oui. Ah, carrément.
Voilà, donc voilà. Et par contre, sur cette extension-là, Invasion Xeno, je n'ai pas spécialement remarqué de lourdeur, d'alourdissement en termes de temps. Alors évidemment, c'est peut-être un peu plus long parce qu'il y a une phase supplémentaire d'attaque.
Ouais, forcément, il y a de la manip en plus.
Mais ça reste très fluide.
Ouais.
Et ça passe très bien.
Ouais, c'était des parties assez rapides finalement.
Okay. Là où je voulais en venir quand même, c'est que dans l'arc 2, qui est l'invasion alien,
l'orbe alien.
Je connais pas, mais regardez pas. Ouais.
Dans cette extension 2, le paquet de cartes, pour autant, il est quand même intéressant parce qu'il permet de rehausser. Il rajoute des cartes aliens et des cartes. Génétique, je sais plus, les cartes vertes en tout cas.
Oui, c'est
du coup ça équilibre certaines stratégies parce que le jeu de base il a tendance quand même à favoriser les stratégies de production.
En tout cas,
les stratégies jaunes et vertes elles sont franchement pas faciles à tenir avec le jeu de base. Et là ça donne quoi?
Alors là en fait on a au niveau des cartes. Donc des cartes Xeno qui sont des mondes qui sont déjà envahis par les Xeno mais qu'on peut conquérir avec les forces Xeno. Et il y a un bon équilibrage par rapport aux cartes qui ont été rajoutées. Donc quelle que soit la couleur ou même le militaire, on retrouve en fait à chaque fois dans toutes les catégories des cartes qui nous permettront aussi d'interagir avec les Xeno. Enfin, moi, j'ai vraiment eu une impression qu'il y avait, ça allait assez bien.
Okay.
Bon, après, encore une fois, on a fait trois parties. Enfin, moi, j'en ai fait trois parties.
Deux.
Donc,
Mais du coup, tu as trouvé un cadeau à ta chère et tendre, et puis toi, tu es moins triste.
Ouais, je suis beaucoup, voilà. Beaucoup plus heureux, et je pense que du coup, j'ai vraiment envie d'acheter le jeu, même si moi, ma chérie, elle va pas forcément y jouer avec moi.
Change.
Ouais, et voilà, donc j'espère peut-être trouver d'autres gens qui joueraient avec moi. Mais alors, je sais pas si voilà, j'aurais peut-être envie d'acheter directement le jeu de base avec cette extension plutôt que juste le jeu de base.
D'accord,
très bien. Vous avez quelque chose à ajouter?
Non, pas spécialement. Non, juste le week-end proxy jeu, c'est trop cool.
Ah, si, bonne nuit.
Et bonne nuit. Moi, je vais terminer un Russian Railroad là parce que j'ai interrompu une partie en cours.
Avec German.
Bon courage.
Avec German Railroad. Ah, okay. Ouais, bah, merci beaucoup.
Bah, bon amusement.
Merci.
Salut les gars, à bientôt.
Salut. Bonne nuit à tous. Bon courage.
Et c'est maintenant au tour de Père Castor, Benjamin et Hervé de nous rejoindre. On accueille maintenant Père Castor.
Salut.
Benjamin.
Salut.
Et Hervé.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler de Twilight Struggle, c'est ça?
C'est ça, donc...
Tu restes dans le thème de ta chronique habituelle, puisque il a longtemps été premier sur Board Game Geek, avant d'être détrôné par Pandemic Legacy.
Voilà, petite déception depuis qu'il est passé numéro 2, mais...
Numéro 2, faible victoire. Donc, un jeu d'Ananda Gupta et Jason Matthews. L'illustrateur, je le cite quand même, hein. Même si ouais. Donc c'est Marc Simonitch et l'éditeur GMT.
Alors on aurait pu faire une entrée au guide au record du Guinness parce qu'on a réussi à faire deux parties Twilight Struggle en l'espace de 12 heures. Donc je sais pas si ça s'est déjà fait.
Ouais, je sais pas effectivement.
Ça mérite des applaudissements. Hein.
Bravo.
Donc c'est vrai que c'est un jeu où le thème est pas forcément attirant.
Ça parle de quoi, ouais. Petit rappel.
C'est un.
Admettons, je connais pas, tu vois, du tout.
Alors, est-ce que t'aimes l'histoire déjà? C'est la première question qu'il faut te poser avant de te présenter le jeu. Si tu me dis l'histoire, ça m'intéresse pas, c'est même pas la peine.
Donc ouais, première question. J'adore l'histoire
et les communistes. T'aimes ça, voilà, les communistes?
Donc, en particulier l'histoire des communistes.
Donc deuxième question, est-ce que la guerre froide ça te parle?
Ah, ça me laisse un peu froid, mais.
Voilà, donc si t'es pas trop chaud, c'est pas la peine. Et sinon, en fait, Twilight Struggle, c'est un jeu dans lequel on va retracer toute l'histoire de la guerre froide au lendemain de la défaite de l'Allemagne jusqu'à la chute de l'Empire de l'Union soviétique.
45-91.
Du coup, on connaît déjà le résultat.
Voilà,
spoiler.
Mais c'est ça, ouais.
Ouais, enfin, il se trouve que dans les parties, l'histoire ne s'est pas répétée.
Ouais, en fait, manque de chance, dans nos deux parties, c'est chaque fois les Russes qui ont gagné.
Alors, donc, t'as joué, donc, Père Castor, tu as joué contre Hervé, c'est ça?
Oui.
Alors, qui a joué quoi? Vous avez échangé ou pas?
On a fait donc deux parties, j'ai fait à chaque fois le russe, et ouais, j'ai eu la chance de gagner dans les deux cas.
C'est le côté
c'est juste de la chance, alors.
Ça n'a pas répété l'histoire.
Voilà, j'ai été un petit peu persévérant après une première défaite assez cuisante hier. J'ai voulu retenter aujourd'hui. Et finalement, le résultat n'a pas été meilleur. Hein, mais...
Alors, vous nous expliquez un petit peu comment ça fonctionne, Twilight Struggle, parce que bon, j'allais dire un grand ancien. C'est un jeu qui est sorti en 2005.
Tu parles de grand ancien pour un 2005, ça. T'es dur, hein. T'es dur.
Mais non, c'est pour ça que je me rattrape. Mais enfin, c'est surtout un monument, quoi.
Oui, c'est un jeu qui est en marche en card driven, c'est-à-dire que la progression dans le jeu va se faire au travers de jeux de cartes qu'on a en main. Ces cartes-là, les cartes ont des événements qui vont concerner soit les États-Unis, soit la Russie. Et donc, on va chacun à son tour alterner et jouer ces cartes-là, soit pour avoir des points d'opération qui vont permettre de réaliser des opérations sur la carte de jeu et de contrôler plus ou moins des territoires, soit de réaliser des événements historiques en faveur de l'américain ou du russe, en fonction de la carte. Et donc, on va avoir à la fois la possibilité de maîtriser son jeu, mais aussi de rejouer une partie de l'histoire avec éventuellement, bien évidemment, des résultats différents sur les grandes guerres. Par exemple, nous, on a eu la guerre de Corée où c'est le russe qui a gagné, en fait, plutôt que match nul. Donc,
c'est la Corée du Nord qui a envahi la Corée du Sud
s'est maintenue. La guerre de Corée sans les Coréens.
Exactement. Il y a eu une phase aussi où Israël est passé sous le contrôle russe. Donc voilà, il y a des petites différences comme ça qui apparaissent, qui peuvent être un peu intéressantes pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Et puis de proche en proche, on va à travers les époques et petit à petit, on a de plus en plus d'événements divers et variés qui retracent l'histoire pour pouvoir rejouer cette partie.
Alors la mécanique, elle mêle du card driven avec de la majorité finalement, parce que c'est des points en fait qu'on va positionner dans le monde, des points d'influence, c'est ça?
C'est ça, en fait, tu vas avoir donc les différents pays positionnés sur la carte et tu vas avoir la possibilité de mettre des marqueurs d'influence soit côté US, soit côté soviétique. Mmh. Et le but, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas jouer des cartes de score et tu vas faire l'état des lieux en fait dans une région pour voir quel est le pays qui soit le contrôle, soit est majoritaire, soit est juste présent. Et tu vas avoir un équilibre des scores qui va basculer en fait entre moins 20 et plus 20. Et dès qu'un pays arrive à l'échelle maximum, c'est-à-dire soit à moins 20, soit à plus 20, et ben ça va déclencher la fin de la partie.
D'accord. Ça déclenche la fin de la partie, mais enfin ça, la victoire, non ?
La victoire, voilà, d'un des deux camps. Mmh. Alors je dis toujours ce jeu, si je l'avais eu en terminale, parce que typiquement la guerre froide, c'était le programme d'histoire lorsque j'ai passé le bac, et ben je pense que j'aurais maximisé mon épreuve d'histoire au baccalauréat. Malheureusement, bon, il n'était pas encore sorti à cette époque.
Ouais, mais t'as pas peur d'avoir écrit dans ta copie alors les Russes, ils ont perdu l'Afghanistan et puis ils ont pris Israël.
Voilà, ouais, ils ont gagné au Japon, par exemple.
Ouais. Ouais, ça peut être un peu confusant.
Voilà, hein. C'est ça.
Dans le livret de règles, il y a les notes du designer et il y a pas mal d'éléments, de commentaires, effectivement, sur les différents événements. Ça peut être aussi une façon de revoir son histoire.
Alors, les événements ne s'enchaînent pas forcément dans un ordre anarchique hein, par rapport à la réalité. Il y a certains événements, on va pouvoir les jouer qu'après la survenance de certains événements. Si je prends l'exemple, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails historiques, mais par exemple, je ne vais pas pouvoir jouer la création de l'OTAN si au préalable, le pacte de Varsovie n'a pas été joué côté russe. Okay. Donc ça parlera...
Il y a des éléments de respect de l'histoire quand même.
Ouais,
quand même. Faut pas déconner.
Voilà. Du coup, si on n'aime pas l'histoire, ça peut être bien, juste d'un point de vue mécanique, on peut aimer, Hervé ?
Je pense que la mécanique est très tendue, il y a beaucoup d'interactions entre les deux joueurs, c'est tout le temps un petit peu la course pour le contrôle des pays, donc je pense que la mécanique en elle-même peut être intéressante. Bon, ça reste quand même un jeu où le thème est très fort, pour ceux qui aiment des thèmes très forts, ça, je pense que c'est vraiment un très très bon jeu. Je pense que on peut trouver des jeux qui sont plus centrés sur la mécanique, où on prendra peut-être plus de plaisir à travailler la mécanique que ce jeu-là, où effectivement, si l'histoire ne nous intéresse pas, je pense que c'est moins passionnant.
Ouais. Il faut quand même donc rappeler déjà, c'est un jeu qui joue uniquement à deux. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit.
Ouais, qui est assez long.
Qui est assez long, voilà. Vous avez fait vos parties, vous les avez fait en combien de temps?
Alors écoute, notre première partie, elle a duré plus de 3 heures, mais il fallait qu'on se remémore un petit peu les règles, parce que forcément, c'était que ma deuxième partie. En fait, moi j'ai le jeu et là on a joué avec la version d'Hervé. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être reparler un peu plus tard du matériel.
Ouais.
Et toi, Hervé, c'était ta combienième partie?
Peut-être 5-6, quelque chose comme ça. Ouais.
Ah, donc tu partais avec un avantage, ouais, c'est pour ça que j'ai perdu.
Les excuses. Et du coup, la deuxième, elle était beaucoup plus courte, c'est ça?
C'est ça, j'ai perdu en 1h20, on va dire, la deuxième.
Mais t'as roulé dessus, hein. J'ai russe.
Et c'était à peu près en milieu de partie chaque fois que j'ai perdu.
On ne peut pas parler de wargame, hein, je pense, quand même, de card driven, mais est-ce qu'il y a certains éléments de wargame ou...
Bah, pour les gens qui ont joué du wargame et qui peuvent éventuellement vouloir avoir des jeux plus accessibles, je pense que c'est typiquement le jeu intéressant où le contexte historique reste très fort. On est dans la simulation, mais on a éventuellement quelque chose de plus léger à digérer qu'un wargame classique. Donc pour moi, qui étais très fan de wargame, c'est vraiment le jeu assez idéal au sens où il y a une thématique historique très forte qui reste présente, sans avoir tout l'aspect des fois un peu plus lourd du wargame.
Sans avoir à laisser le jeu installé tout le week-end sur la table.
Exactement.
Parce qu'au final, le nombre d'actions disponibles est assez limité. On a 4 actions disponibles dans notre tour et toute la richesse va venir des cartes. Mmh. En fait, les événements qui sont liés aux cartes qui vont être déclenchés lorsque l'on va les jouer.
J'ai vu des dés.
Ouais, alors ça c'est pour le côté un peu améritrash.
Ouais.
Ouais, il y a quelques opérations dont le sort est réglé par les dés. Mais c'est toujours, quand on va jeter un dé, on a toujours eu la possibilité de jouer des cartes ou d'avoir des modificateurs qui font que normalement, on est censé prendre une part contrôlée de risque.
Pour revenir sur l'aspect mécanique et surtout l'imprégnation en fait, du thème dans le jeu, c'est qu'on va avoir trois decks de cartes qui vont représenter les trois périodes de la guerre froide. Et ça
rappelle-nous les trois périodes de la guerre froide.
Oh là, alors en termes d'années exactes, ça je ne vais pas pouvoir te répondre. J'ai pas...
Coexistence pacifique, la
alors,
détente.
Il y a la partie juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il va couvrir la phase où l'URSS est encore très forte, effectivement, jusqu'à la mort de Staline, quoi, grosso modo.
53.
Voilà. Avec une grosse présence en Europe.
Des cartes assez puissantes pour le russe. Et petit à petit, c'est ça qui est aussi intéressant dans le jeu, c'est que le russe sait qu'il doit scorer beaucoup au début de la partie, parce que petit à petit, les US reprennent la main. Et la fin de la guerre froide lui est beaucoup moins favorable, ses cartes sont beaucoup plus faibles. Et donc il faut qu'il arrive à se mettre dans une situation suffisamment avantageuse durant les premières phases de la guerre froide pour pouvoir éviter de se faire complètement laminer sur les phases finales.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en début de partie, on va vraiment avoir un conflit très tendu en Europe, et petit à petit, ça va s'étendre à l'Asie, et plus tard en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et en terminant par l'Afrique.
D'accord. Alors, il me semble qu'on ne l'a pas expliqué, mais en fait, le paquet de cartes est bien commun aux différents joueurs. Et quand on dit effectivement qu'il y a des cartes qui sont plus fortes pour le russe au début de partie, en fait, c'est que l'américain va se retrouver avec des cartes du russe et vice-versa, en fait.
C'est ça, ouais. Et en fait, quand, par exemple, le joueur US va jouer une carte, bah, au bout d'un moment, il va être obligé. S'il a un certain nombre de cartes russes en main, il va en jouer une. Donc, il va pouvoir l'utiliser pour sa valeur d'opération, pour mener une opération et... de manière indirecte, ça va déclencher l'événement russe associé. Donc ça va faire profiter le joueur adverse.
C'est ça. Donc du coup, tout le sel du jeu, en fait, c'est de réussir à jouer les cartes de l'adversaire au moment où elles vont lui être le moins favorables. En fait. C'est un peu là qu'il faut sentir le bon moment de jouer ces cartes-là.
Et du coup, d'un point de vue du thème, donc très fort, est-ce qu'il y a vraiment un sentiment d'une espèce de narration, une uchronie, je crois qu'on dit, quand c'est comme ça, on modifie l'histoire.
Ouais, c'est ça.
Vous le ressentez comme ça ? Est-ce que le fait qu'il y ait un événement modifié en 53, par exemple, je sais pas, il lance la guerre des étoiles au moment des années 80, on sent une espèce de filiation des événements ou ça reste le thème qui est fort, mais il n'y a pas vraiment une narration modifiée de l'histoire ?
Bah, typiquement, cette carte, elle va se retrouver dans le dernier paquet, donc ça sera la dernière période de la guerre froide. Donc on ne va pas jouer des uchronies fortes comme la guerre des étoiles dans les années 50, par exemple. Ça, on ne va pas le retrouver. Mais c'est juste la succession au sein d'une période qui va peut-être être légèrement modifiée par rapport au cours réel de l'histoire.
Écoutez, vous avez des choses à ajouter ?
Peut-être un jeu qu'on peut conseiller pour... si on veut s'attaquer à Twilight Struggle, mais qu'on a un peu peur de ce monument, est-ce qu'on peut conseiller un jeu dans le même genre, un peu de card-driven, comme ça, qui pourrait intéresser les joueurs de Wargame ?
Alors, GMT s'est fait un peu une spécialité de sortir des jeux comme ça. Ils restent quand même tous d'un niveau relativement complexe. On peut être intéressé par des séries qui sont assez intéressantes et basées sur le même principe. L'auteur, justement, a beaucoup travaillé autour de tout ce qui est les guerres asymétriques. Donc ça reste quand même des thèmes historiques sur, par exemple, tout le trafic de drogue en Amérique du Sud et tout ce qu'il y a eu autour de ça, ou sur la guerre du Vietnam, ou aussi sur la révolte, les rébellions aux Philippines. Ça reste quand même des jeux assez costauds.
Moi, je pensais, j'ai jamais fait Twilight Struggle, mais je pensais à 1812, 1775, qui sont aussi des card driven, voire Fury Across Snow. Est-ce qu'on retrouve un peu des sensations similaires ou...
Fury Across Snow, c'est pas un card driven, moi je trouve pas. Hein.
C'est un deck building, tu vas dire ?
Ouais, c'est un deck building.
Ouais. J'ai pas joué à ces trois jeux.
1812, donc. C'est un card driven, t'es d'accord ?
J'ai jamais joué.
C'est un Warto d'après la dénomination officielle.
C'est un plagame. Ouais.
Et Kennedy vs Nixon, ça ressemble ?
Alors Kennedy versus Nixon ressemble tout à fait sur le principe. Donc pas de thème militaire, hein, le thème des élections américaines. Un jeu aussi qui est vraiment très intéressant, très tendu. Qui reste quand même d'une certaine complexité.
Je suis d'accord. J'ai vraiment très vite fait le parallèle avec 1960 Kennedy contre Nixon. Et c'est très similaire, hein, card driven, prise de position de majorité, c'est vraiment très très similaire. Mais c'est pas forcément beaucoup moins long. Ça avait l'avantage d'être en français, c'est plus édité en fait, enfin c'est plus disponible, on le trouve plus. Note du monteur, 1960 Kennedy contre Nixon est à nouveau disponible. Je répète, 1960 Kennedy contre Nixon est à nouveau disponible chez Philibert. Donc de toute façon... parce qu'on ne l'a pas dit, mais Twilight Struggle n'est disponible qu'en anglais. Il n'y a pas de traduction.
Alors, il y a eu une version française, mais de toute façon, qu'on ne trouve plus. Mais sinon, sur BGG, on trouve une traduction des règles. Mais effectivement, après, Ouais, alors après, si on fait un peu de die, y a moyen d'imprimer les textes français et de les coller sur les, ouais, sur les cartes.
Hein. T'as évoqué le matériel aussi avant
Ouais, bah en fait là en plus on a joué avec une ancienne édition qu'a Hervé, donc ouais, au niveau du plateau on a
pas vraiment vintage.
Voilà, ouais, c'est... tu peux la mettre sous vitrine, celle-là.
C'est du rétro gaming.
Je l'ai acheté quand elle était en P500, donc c'est-à-dire que sur la première édition. Donc il fallait au moins avoir
le
500
P500,
acheteurs.
Ouais,
donc GMT Games qui est une société qui édite pas mal de jeux historiques aux US. À une gamme de jeux où il faut au moins 500 personnes qui achètent le jeu, donc les P500.
C'est l'ancêtre du Kickstarter. Hein.
Ouais, pour déclencher, ouais, exactement, ouais, pour déclencher la production du jeu. Et donc Twilight était sorti à l'époque et bon, il a eu un gros succès, donc il n'y a vraiment pas eu de challenge sur le fait d'avoir 500 acheteurs. Beaucoup de gens étaient très intéressés. Les Américains sont très friands de ce type de jeu. Et donc, c'est une des premières. La première édition en P500 de Twilight.
Le plateau, c'est une feuille pliée. Donc, on n'a pas de vrai plateau. Ouais,
c'est déjà du do-it-yourself, en fait.
Ouais. Voilà, ouais, un plateau un peu cartonné, mais c'est pas très épais, quoi.
Alors, pendant un moment, justement, pour compenser la faiblesse de ce plateau, ils ont lancé un P500 sur le Deluxe, une version Deluxe, donc qui permettait à ceux qui avaient la première version d'avoir un plateau un peu plus costaud et des cartes revues.
Et des pions aussi un peu plus épais, parce que là, en termes d'épaisseur, on est proche du millimètre.
Et en fait, elle n'a pas abouti, cette édition. Quand j'avais bidé dessus, elle n'a pas abouti. Donc, je pense que maintenant... tu me disais que le kit était disponible.
Alors, en fait, il me semble que je l'ai vu disponible. Et de toute façon, maintenant, à partir de 2012, c'est la version Deluxe qui est vendue. Donc, elle contient des marqueurs plus épais et un vrai plateau monté.
Et on la trouve autour de combien 60 €?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. À peu près. Ouais.
C'est 55 € chez Philibert, Twilight Struggle Deluxe.
Ouais. Genre 5 € de moins que Kaya.
Voilà.
Ouais. Ce qui est vraiment bien dans ce jeu, moi je trouve, c'est que c'est un jeu à deux où il y a une tension très forte entre les deux joueurs. Il y a une interaction vraiment très très importante et on est tout le temps dans l'attente de ce que va jouer l'autre et de se repositionner par rapport à ça tout en construisant son propre plan. Et donc je trouve les tours vraiment très intenses en termes de réflexion, en termes d'implication et d'engagement dans le jeu. Ouais.
Sur les 3 heures, vous vous êtes pas ennuyé une seconde, quoi?
Non, parce qu'au final, on va essayer d'anticiper que va faire l'adversaire et tout en réfléchissant à nos propres plans. Donc, c'est pas un jeu vaisselle en fait où on va partir. On a systématiquement quelque chose à faire.
Okay, très bien. Et le Guinness Book demain, une troisième?
Non, peut-être pas. Il nous reste la matinée, on verra. Pour espérer une victoire US quand même sur le week-end.
Alors, faut qu'Hervé prenne les US, quoi.
Ok, ben merci beaucoup. Alors on va passer à un autre jeu, on va garder la même équipe, et donc on va passer à Meeple War,
un jeu de Max Vallambois, édité par Blue Cocker et illustré par Anne Heitzig. Vas-y. Alors, Benjamin.
Meeple War, tout d'abord, c'est aussi un jeu pour les amateurs d'histoire, parce qu'il faut dire que Meeple War, c'est un jeu qui se passe avant que les Meeple soient dans les jeux qu'on connaît comme Carcassonne ou autre, à l'époque où c'était ils vivaient dans des petits villages un peu sauvages, un peu des villages à l'astérisque, et ils se tapaient les uns sur les autres. Et comme parce qu'ils sont un peu gentils quand même, en fait, ils se tapaient pas vraiment directement les uns sur les autres. En fait, ils fabriquaient des robots qui s'appellent donc les Meeple, et ils envoyaient ces robots se taper et se faire la guerre et brûler les bâtiments des villages adverses.
Et tu nous disais que selon Tom Vazel qui a gagné.
Et je disais, oui, bien sûr, pardon, que c'est les Meeple bleus qui ont gagné, de toute évidence, parce qu'il faut savoir que dans le jeu, on a 4 couleurs de Meeple qui ont tous des formes un peu différentes, et c'est les bleus qui ont la forme des Meeple de Carcassonne, et comme on sait aujourd'hui, c'est eux qui ont survécu, donc c'est eux qui ont gagné.
C'est des petits Meeple.
Ouais. Ah, ils sont tout petits. Hein.
Oui, ils ont grandi, c'est comme les humains, hein, ça grandit au fil des générations, c'est normal.
Ok.
Et alors, du coup, peut-être Hervé, toi, t'en as pensé quoi de manière générale? Est-ce que c'est un jeu qui t'a plu, qui t'a laissé...
Alors moi je vais rester sur une impression un peu mitigée. Déjà parce que je me suis pris une raclée, donc c'est pas forcément
ça aide pas.
Moi pareil.
Par contre il aime bien Twilight Struggle, il a gagné 2 fois, il y a pas de souci.
Moi pareil, je me suis fait rouler dessus et j'ai eu le surnom de victime tout le week-end.
Voilà. Moi ce qui m'a laissé un peu dubitatif, c'est que effectivement il y a un moment où j'ai fait une erreur, c'est sûr, mais vraiment ça m'a complètement mis hors course pour tout le reste de la partie. Et qu'on puisse laminer complètement quelqu'un d'un coup, sur un coup, quoi, quasiment. Et qu'après, c'est quasiment impossible de revenir. Ça me laisse un peu dubitatif sur le jeu, quoi, parce que...
Bon. Ouais.
Maxime.
Alors, est-ce que tu as joué avec la mauvaise règle, entre guillemets, parce qu'on a...
On a découvert, il y a une action qui est la conversion de meeple, où on transforme un meeple adverse en un meeple de notre couleur, et alors nous, on le faisait sur le plateau, alors qu'en fait, tu ne peux le faire qu'à partir du moment où ils ont commencé à détruire un bâtiment adverse. Alors, tu as joué avec la bonne ?
Un bâtiment, hein.
Je pense qu'on a joué avec la bonne, oui.
Quel talent.
Ah, parce que du coup, en jouant avec la mauvaise règle, forcément, on pouvait anéantir des masses de meeples adverses de manière
coup,
un peu facile.
Et du coup, il est annoncé pour 45 minutes et on y a passé beaucoup plus que 45 minutes.
Ah ouais. On a joué presque 2 heures au final.
1 heure et demie, je crois.
Ah, ça, c'est assez surprenant parce qu'on avait joué à Cannes, Benjamin aussi qui a joué à Cannes, et on a joué vite à Cannes, et pourtant, c'était une partie de découverte. Quoi.
Oui, bon, ben voilà, effectivement, ensuite, quand on fait des erreurs sur les règles, c'est clair que ça change les choses. Là, ça a beaucoup rallongé la partie. C'est un jeu qui en principe est assez rapide. Là j'ai fait 9 parties en tout. Les parties durent en général moins d'une heure. C'était un gros succès de Cannes. Je crois que c'est un des jeux qui a vraiment fait le buzz à Cannes. J'ai la chance d'avoir récupéré une boîte qui était probablement la dernière. En tout cas quand je l'ai acheté, il n'y en avait plus chez l'éditeur. Et dans le magasin où on l'a acheté, c'était la dernière.
Ah là là, c'est fou, sold out, c'est... incroyable.
Ben voilà, ben c'est pour dire que le jeu a eu du succès en tout cas.
Ou bien qu'ils n'avaient pas beaucoup de boîtes.
Non, il y avait pas mal de boîtes. Et c'est vrai, il faut avouer que Cannes, c'est pas un salon sur lequel on vend beaucoup. Donc c'est quand même assez significatif. Moi j'en avais eu une très bonne impression. Hein. On pourra retourner sur le retour de Cannes qu'on avait fait avec Stéphane. J'avais eu une bonne impression sur le jeu. J'étais un peu curieux de vous entendre parler ce soir dessus.
Je l'ai surtout acheté par rapport à tes retours assez positifs lors de ton débrief de Cannes.
Et il est sur Ocaseo maintenant.
Ah ouais, déjà.
Le tien, tu l'as pas
mis en temps. Non, justement, je l'ai acheté et j'ai pu jouer ce week-end. Non, moi, okay. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect escarmouche rapide en fait du jeu. Souvent dans les jeux de combat où on va s'affronter les uns les autres, on est obligé de monter une armée pendant une heure pour après avoir une espèce de combat final. Et là, en fait,
il y a un côté un peu à la Kemet où boum 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 dans ta gueule, quoi.
Voilà, et après tu peux quand même revenir. Enfin, j'avais pas l'impression qu'on était complètement anéanti. Bon, sauf bien sûr si on se fait anéantir son bâtiment de départ.
Bah, ça c'est si on le protège mal du départ aussi. Enfin, si on joue mal, c'est sûr que.
Donc au final, on a eu pas mal d'escarmouches. On a pu revenir dans la partie. C'était pas mal.
Je sais pas si vous voulez que je dise un peu ce que c'est comme jeu, peut-être.
Vas-y rapidement.
Donc c'est un jeu, l'auteur dit qu'il a voulu reproduire des jeux du type Age of Empires, Starcraft, Warcraft sur un plateau. Alors en très simplifié bien sûr, mais on a cette mécanique où on va construire des bâtiments. Construire un bâtiment prend un certain temps, il y a un système pour compter le temps avec un petit cube qui avance. Et puis une fois que le bâtiment est construit, on peut l'utiliser pour qu'il fasse des actions. Et là de nouveau ça coûte à chaque fois un certain temps. Et puis quand le cube arrive à une certaine position... le bâtiment peut faire l'action qu'il a voulu faire.
Et donc,
dans
les actions,
ça peut être par exemple justement construire des robots, les envoyer se battre. Il y a pas mal d'actions différentes, il y en a je crois une vingtaine.
Et construire un bâtiment aussi dans les actions de base, puisque forcément il fallait construire.
Bâtiment dans les actions de base, effectivement. Et puis ensuite, une fois qu'on a construit ces petits soldats, on les met sur le terrain, on les envoie, ils vont explorer, ils vont rencontrer d'autres meeple, ils vont se battre. Et ça c'est la mécanique du jeu, donc basée comme ça sur Age of Empires.
Et après donc ces meeples, ils vont essayer d'aller donc conquérir les bâtiments adverses comme on a dit. Et sur ces bâtiments, il y a un certain nombre d'emplacements. Et pour le détruire, il faut occuper tous les emplacements. Quand tous les emplacements d'un bâtiment sont occupés, le bâtiment est détruit. Alors il y a une petite question de points de victoire. Le but c'est de gagner 6 points de victoire quand même. Quand quelqu'un a 6 points de victoire, on arrête la partie. Et donc quand un bâtiment est détruit, admettons que le bâtiment de départ par exemple, il faut 6 meeples pour le détruire, admettons qu'il y ait 3 verts, 2 bleus, 1 rouge, et chacun va récupérer ses meeples et ça sera autant de points de victoire pour ça. Moi j'ai trouvé que c'était un jeu qui tournait, qui était assez interactif, mais qui tourne.
Interactif, ça on peut pas dire que ça l'est pas. Hein.
Ouais, mais un jeu qui tourne, et pour moi c'est plus assez quoi. Aujourd'hui un jeu qui tourne c'est bien, mais c'est pas, je le prendrais pas quoi, clairement.
Un des grands intérêts à mes yeux de ce jeu, c'est justement ces bâtiments, et c'est d'essayer de les combiner. Parce que on a dans le jeu actuellement, il y a 10 bâtiments différents. Ça me paraît assez clair qu'il y aura des extensions, parce que c'est vraiment le genre de jeu qu'on peut étendre facilement. Et puis chercher parmi les 10 bâtiments que tu as, quelle combinaison de 4 tu peux faire pour avoir quelque chose de mieux possible. Alors je sais pas par cœur combien fait un choix de 4 parmi 10.
Non, j'en sais rien, mais ça fait
pas mal. Et bon, même quand on a trouvé une combinaison qui est très bonne, on a envie d'en essayer d'autres parce que juste pour le plaisir d'essayer, ouais, mais si je combine ce bâtiment avec celui-là, qu'est-ce que ça va donner? Et puis évidemment, il y a ce qu'on fait soit sur son village, quel bâtiment on construit, mais aussi quel bâtiment on reconstruit l'autre. Ça va avoir une influence évidente.
Ouais. Et puis il y a vraiment la notion de timing qu'il faut gérer et qui est pas simple, vraiment pas simple, parce que il y a des actions qui font enchaîner correctement. C'est-à-dire que si je produis, enfin si je dis que je vais déplacer mes meeples mais que j'ai oublié de les produire, ça marche pas quoi. On peut rater des coups vraiment.
À un moment, j'avais trouvé une assez bonne mécanique parce que je pouvais produire et systématiquement sortir les meeples.
Ouais, il avait fait un petit script qui mettait en boucle et puis qui disait je produis, j'envoie, je produis, voilà, j'envoie, je produis.
Ouais, ouais. Il vous a rasé, c'est que.
Ouais, je pouvais en sortir 4 une fois tous les deux tours, donc ouais, c'était assez efficace.
Ouais, mais voilà, t'en sors 4 une fois tous les deux tours, mais il y a un tour où tu fais rien. Et c'est.
C'est le tour de repos.
Là...
Hein.
Non, mais c'est là qu'en fait, il faut. Il y a vraiment des failles, forcément, dans les stratégies des joueurs, et il faut réussir à profiter de ces failles-là. Bon, je pense qu'il y a des notions d'alliance aussi qui peuvent se faire. Bah, pour moi, le jeu me paraît quand même assez riche. Encore une fois, j'ai fait quand même partie de Cannes. Donc,
Après, c'est un jeu à progression parce que tu as un certain nombre de bâtiments que tu peux construire, mais tu n'as que 4 emplacements. Donc, tu peux explorer différentes stratégies. Quels sont les bâtiments que tu vas combiner
Pour moi, ce n'est pas de la bonne progression. Tu vois, quand on t'offre de la profondeur juste en multipliant les bâtiments, ce n'est pas la profondeur que moi je recherche dans un jeu. Je pense qu'on peut donner de la profondeur sans multiplier les variables, en fait. Mais bon.
Mmh. Ok.
Ouais, juste pour dire, cette combinaison que tu avais qui était bonne, effectivement, aurait pu te faire gagner. Et puis, tu as fait le choix de pas attaquer. Je sais pas très bien pourquoi. Mais c'est pour dire que aussi, bah voilà, tu as une bonne combinaison. Ensuite, c'est pas tout. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Bah, ça va avoir encore une influence. Donc, il y a aussi ça en plus.
Et puis, de toute façon, tu n'avais pas les bleus, c'est ça? C'est les bleus qui gagnent à la
fin. Si, en plus, je les avais. Mais
ah, merde. Traître.
Mais Flavien, il subissait déjà assez à côté de moi. Je voulais pas non plus le.
Le plateau ouais. a encore mes larmes.
Voilà, c'est ça. Il gondole là.
Okay. Il gondole des larmes de Flavien.
Voilà.
D'où tes propos aigris.
C'est ça. Ok. Vous avez des choses à ajouter sur Meeple War?
Oui, peut-être. On parle du matos un petit peu.
Ouais.
Le matos, ça, il faut le dire, il est de qualité médiocre.
Pour les illustrations. À 27€, je crois, hein, c'est ça.
Ouais, mais bon, ouais, voilà. Les illustrations sont jolies et rigolotes. Il y a plein de petits easter eggs un peu partout sur les tuiles, donc ça, c'est plutôt sympathique. Maintenant, la qualité des meeples, la qualité du bois, c'est vraiment pas génial. Les tuiles sont très fines. Il y a plein de petits bouts de carton, la sortie du village, l'arbre qui cache la forêt, qui sont des toutes petites tuiles que tu vas perdre très facilement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il y a aussi un pion joueur actif qui est en principe inutilisé parce que
un gros marteau.
C'est un gros marteau, mais qui n'est pas si gros que ça. Il est tout plat parce qu'il est en carton relativement fin. Et si on voulait faire un pion joueur actif qui se passe vraiment d'un joueur à l'autre, il faut un pion qui soit facile à attraper, même s'il n'est pas juste devant toi, que tu puisses aller le prendre chez l'autre. Et il aurait fallu faire un gros pion en bois qui aurait peut-être été plus cher, mais qui aurait été plus utile.
Et qui aurait rappelé un peu l'illustration de la boîte, peut-être.
Et voilà, peut-être.
Ouais. Bon, après, il faut rappeler que c'est une petite boîte d'édition, encore un Blue Cocker. Y a quand même...
Medieval Academy, pour le coup, est excellent.
Ouais, c'est vrai. Je pense, la qualité du matos, je suis d'accord, hein, c'est vrai, les tuiles sont fines. Moi, je trouve que les meeples sont jolies. Alors, je sais pas la qualité
mignons,
du boîte, oui. Est peut-être tombé sur une mauvaise.
Non, mais tout est mignon, les illustrations aussi sont très jolies, ça oui.
Du coup, ça, je trouve que ça a tendance au moins à masquer effectivement les défauts d'épaisseur de carton et tout ça, le fait que ce soit du matériel joli. Il y a quand même beaucoup de tuiles dans la boîte. Il y a ces meeples, tout ça. Enfin, je pense que l'art de rien, on est sur une boîte qui a 26,90€ là chez Philibert. Je suis en train de regarder. Il y a du matos quand même quoi dedans. Donc,
mais c'est une petite boîte d'édition. Mais moi, je leur souhaite que de grandir parce que, comme tu l'as dit, Medieval Academy était un jeu absolument excellent. Celui-là est d'après moi excellent aussi. Je leur souhaite gagner plein de prix et puis de
grandir. Je pense qu'ils auraient pu effectivement faire du matos de meilleure qualité et du coup la boîte aurait été plus grosse et à 40€ quoi. Enfin, clairement, ouais. Je pense qu'on aurait.
Parce qu'au final, pour un prix assez raisonné, au final, la boîte est quand même assez lourde hein, la première fois que tu l'as en main. Hein.
Depuis quand on paye ses jeux comme on paye de sa viande?
Voilà, tu passes à la balance avant de passer à la caisse.
Ouais, c'est Peggy qui nous disait qu'à la ludothèque, elle pesait les jeux si elle avait besoin de savoir s'il y avait des pièces en moins. Hein.
Et des fois, il manquait des diamants.
Ouais. Ok, autre chose à rajouter?
Non, moi c'est bon.
Ouais, c'est bon.
Ok, ben on vous remercie beaucoup pour vos petits billets d'humeur sur Twilight Struggle et sur Mupaloir. Et bonne fin de week-end à vous.
De rien, merci.
Amusez-vous bien, bonne nuit.
Merci. Ciao, salut. Salut.
Merci, salut.
Et maintenant, nous allons accueillir Mathieu et Simon. Bonjour Simon.
Bonjour.
Et bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et vous allez nous parler de Tricerion Legends of Illusion, un jeu de Victor Peter et Richard Hamann, illustré par une pelletée de gens. C'est des auteurs hongrois et c'est des illustrateurs hongrois aussi. Alors je vous l'ai fait. Vilo Farkas, Chila Biro, Laksa Ferres, Agnès Stoth, Gertjo Adam, Attila Safrani, Jula Martin-Kiss. J'espère qu'ils nous écoutent et qu'ils approuveront cette prononciation. L'éditeur, c'est Mind Clash Games. Et en fait, c'était un projet qui était sur Kickstarter, qui a demandé 30 000 euros. Mais succès phénoménal, ils ont rassemblé 285 000 dollars.
Et presque fois 10.
Ah, ils ont demandé des euros, ils ont récolté des dollars.
C'est ça, c'est la classe.
Ça, c'est la classe. Et on va le dire, c'est parce que ce sont des magiciens.
Et, voilà.
Et d'ailleurs, oui. Ils ont été conseillés par un magicien hongrois qui a été champion du monde, un magicien, et donc Yann, qui n'est pas autour de cette table, avec Kickstarter parce que lui-même est illusionniste.
Tout à fait. Et c'est lui qui nous a fait découvrir ce jeu.
Ah, donc vous avez fait une partie pendant le week-end, c'est ça?
Une partie, oui, c'est déjà pas mal. Ça nous a pris une bonne demi-journée.
avec un repas entre, il faut le dire.
Avec un repas entre.
Alors,
vous racontez un petit peu en quoi ça consiste?
Alors, en quoi ça consiste? Nous incarnons chacun un illusionniste qui va être envoyé pour faire des spectacles. Et donc, on a plusieurs possibilités. On va pouvoir recruter des assistants, des assistantes, des mécaniciens, enfin des techniciens plutôt, et des apprentis, afin de nous aider à faire nos tours. Donc, pendant le jeu, on va pouvoir faire plusieurs choses, apprendre des nouveaux tours, avoir le matériel nécessaire à faire des tours, et enfin, ouais, préparer nos spectacles et les produire, en gros. N'est-ce pas, Mathieu?
C'est ça. C'est exactement ça.
Et alors, les 6 heures, les 7 heures, en valait-elle la chandelle, Mathieu?
Eh ben, c'était plutôt pas mal, ouais. C'était plutôt pas mal, c'est très riche. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de petites subtilités. Bon, dans les 7 heures, en vrai, il y avait quand même les règles qui sont bien riches, bien bien riches.
Touffues. Et bien très anglaises.
Touffues. Bien anglaises, ouais.
Ouais. Et vous avez joué avec l'extension en plus, non?
Oui, en plus, on a joué avec l'extension.
Ouais, il y a deux niveaux de règles, il y a le niveau familial et le niveau complet.
Le niveau familial, c'est 4 heures. Le niveau complet, 6 heures.
C'est une belle famille, quoi.
Une famille de joueurs, quand même.
C'est une famille hongroise.
Bon, c'est annoncé 30 minutes par joueur, là, je vois sur la boîte, mais c'est pas trop respecté, quoi. Enfin, surtout pour une première partie.
Avant le repas, si.
Non, alors tu disais il y a deux niveaux de règles. Non, je parlais de l'extension. Enfin, j'avais entendu dire en fait que vous aviez joué avec l'extension, mais c'est pas ça. C'est juste.
Si, on a joué avec l'extension, oui. Donc,
en plus, d'accord.
C'est que ça rajoute un lieu et des pouvoirs aux magiciens en plus et des prophéties aussi, donc qui vont influencer la partie.
Ça rajoute beaucoup de choix, donc du coup.
Ça rajoute surtout beaucoup de lecture des cartes qu'on connaît pas et du coup.
En
ça
anglais.
Rajoute,
en anglais.
Une bonne heure de lecture de cartes.
C'est bien. Il faut lire.
Oui, bah, c'était bien.
Et donc c'est un jeu qui a été édité uniquement en anglais, il n'y a pas de version française.
Mais nous sommes bilingues, n'est-ce pas?
Oui,
quasiment.
Et du coup, Simon, pour un jeu de 6-7 heures, c'est quand même lourd. Est-ce que il se différencie d'autres jeux ou c'est de la pose d'ouvrier, du jeu à l'allemande, sans saveur, un peu chiant?
Ah non.
Ah, carrément.
Un peu chiant, déjà. Bon,
okay. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'original alors dans Tricerion?
Bah, parce que déjà, il n'y a pas que de la pose de choses. Bon, c'est sûr qu'on va envoyer nos gens faire des choses, mais il y a une petite compétition dans le sens de qui va les envoyer en premier. Bon, bah, c'est du placement, quoi. Mais.
Oui, pardon, il faut parler dans le micro.
Mais je peux. Oui. Donc, je ne sais plus où j'en étais.
Oui, il faut les envoyer faire des choses.
Exactement. Oui, il faut les envoyer faire des choses, mais après, tu peux aussi jouer sur le fait de ce que tu veux envoyer et à quel moment, parce que on va tous bloquer nos actions, préparer nos actions à l'avance, et ensuite, on va tous les envoyer, mais chacun notre tour, et du coup, on va peut-être envoyer quelque chose qu'on pensait envoyer avant, plutôt après, pour pouvoir prendre la place à quelqu'un sur autre chose.
D'accord.
Donc ça, c'est pas mal.
Il y a une notion de programmation, quoi.
Oui.
Et de l'interaction, du coup.
Exactement.
Y a beaucoup d'interactions dans la mesure où les spectacles qu'on va donner sont composés de tours qui viennent de
tous les magiciens en fait.
D'accord.
Donc on va pouvoir de tous les joueurs, ouais.
C'est un jeu coop en fait.
c'est un jeu où en fait il y a un performeur qui va produire un spectacle dans lequel plein d'autres de ses potes vont pouvoir produire aussi des tours. Et c'est là que ça va faire mal.
Si vous l'avez fait en grandeur nature, est-ce qu'à un moment Yann est monté sur la table et a fait sa petite performance?
Il est disparu?
Non.
Non.
Ou alors il était tout seul dans sa chambre.
Là ça devient.
Il nous a fait quelques tours. Après, je pense qu'il s'est un peu raté. Parce que bon.
T'as gagné, Simon?
Non, j'ai pas gagné. Ah. Mais Mathieu, oui.
J'ai gagné avec gloire et vénération de la part de mes co-joueurs.
j'ai perdu au début. Et puis après, j'ai regardé mes cartes et j'ai vu que je marquais 7 points de plus. Et du coup, je suis passé avant-dernier. Ça me fait plaisir.
Et du coup, le thème est quand même relativement original. Hein. On ne voit pas tellement des jeux sur la magie. Alors, je pense que ça a joué sur le succès. Parce que, de ce que vous m'en dites, ça fait penser quand même à pas mal de choses. De la programmation, de la pose d'ouvriers. Est-ce que, Mathieu, par exemple, tu l'achèterais, toi qui n'es pas illusionniste?
Non.
Et toi, Simon?
Alors, non plus.
Ouais.
Mais pas parce que c'est un mauvais jeu, mais parce que je n'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu avec mes joueurs habituels, et donc je ne le jouerai pas souvent, je pense.
C'est exactement pareil, jamais je pourrais sortir ce genre de jeu de ce format-là avec les gens qui sont autour de moi en général.
Vous jouez à quoi habituellement?
Dungeon Lord, ça.
Plutôt des jeux plus courts, quoi, une heure et demie, grand maximum.
Ouais, c'est ça. Ouais,
c'est la durée de jeu plus que le type de jeu en lui-même.
Oui, c'est la durée, oui.
Ouais.
Bah, c'est une combinaison des deux. Je pense que pour ce type de jeu, il y a des jeux qui sont plus courts et qui rentreraient plus facilement dans une soirée jeu avec les gens que je...
Et qui procureraient peu ou prou les mêmes sensations sans être aussi long.
Des sensations similaires, mais moins riches.
Ouais, d'accord, ok.
Moins riches.
Donc à conseiller aux illusionnistes et magiciens de tout pays. Et surtout au roi.
Ouais, effectivement, parce que le thème est quand même bien, enfin le jeu est bien ancré dans son thème. Après, ça reste un jeu de gestion, hein, donc le thème, il est là sans être vraiment là, quoi. On fait des choses, on fait des tours, on fait on fait quand même, on manipule quand même beaucoup de matériel sans trop faire attention à ce qu'on est en train de manipuler.
Ouais.
Mais moi, je trouve par contre que quand même le thème est vraiment respecté dans le sens où. Par contre, c'est vraiment, tu vas envoyer ton apprenti pour aider ton magicien. Du coup, c'est pas le magicien qui va pouvoir faire certaines actions. Le magicien va tout pouvoir faire, mais les apprentis vont pas pouvoir faire le tour puisque c'est des apprentis. Et du coup, aussi, on produit notre spectacle dans la semaine. Donc, on peut pas mettre plusieurs fois le même tour dans un même spectacle parce qu'on va pas faire deux fois le même tour. Donc, il y a quand même cette histoire de thème qui, moi, je trouve est vraiment bien.
Plus que le thème qui est bien retranscrit, c'est peut-être plus les mécaniques qui sont bien
collantes, bien collées sur le thème, oui.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Les mécaniques sont pas tellement originales. Maintenant, leurs imbrications sont super cohérentes avec le thème, quoi.
Et les illustrations, là, je vois des têtes.
Les illustrations, c'est magnifique. Le jeu, il est vraiment magnifique. C'est un vrai plaisir de jouer avec ça, du coup.
J'ai vu le matériel, effectivement.
Ouais, le matériel est joli.
Ouais. Ouais. On trouve un matériel. Enfin, je trouve que c'est un peu la marque de ces jeux Kickstarter maintenant. On n'a plus de matériel standard en fait. On voit qu'on a des pions avec des designs un peu originaux et puis une peinture un peu mate dessus et des dés spéciaux qui sont bien
beaux.
Ils sont bien.
C'est bien écrit dessus quoi.
Hein, voilà. Bien marqué.
Bien sculpté, bien.
Voilà, bref.
Le dé.
Ouais, et puis c'est une ambiance un peu steampunk. Du coup, il y a plein de petits clins d'œil dans le fond du décor. Non, c'est vraiment super joli.
Ah oui, alors ouais, j'avais vu le plateau et effectivement, j'avais demandé à Mathieu, mais vous arrivez à lire quelque chose dessus? J'avais l'impression que c'était un peu fouillis, quoi.
Une fois que tu sais de ce que veulent dire les icônes, c'est très clair parce qu'elles sont très très bien faites. Et en plus, t'as la petite tête de jeu où t'as tout le résumé de ce que c'est. Mmh. Et du coup, tu sais.
Ouais, tu détaches vraiment facilement la mécanique de l'illustration.
Plus
quoi.
Que ça, en fait, c'est que je trouvais que les cases, en fait, étaient un peu trop fondues avec l'illustration justement du fond. J'avais vraiment cette impression qu'on n'arrivait pas à faire la distinction entre les deux. Je sais que c'est un travail difficile pour les illustrateurs. Hein,
l'ergonomie, etc.
Mais c'est vrai qu'il y a des cases qui sont dans le décor, mais c'est un peu fait exprès. Tu vois, là, ces cases-là, par exemple.
Ouais, voilà, bon, là, c'est très radiophonique.
c'est radiophonique.
il y a des cases qui sont effectivement transparentes, mais qu'on va.
Mais de loin, ça m'a l'air bien marronasse quand même. Hein.
On va occulter par des actions.
Il y a une tonalité dans les couleurs qui est assez similaire.
Ouais, c'est plutôt sobre.
Oui,
ouais, c'est beau.
C'est vrai.
Et La piste des scores, c'est les sièges du gradin du théâtre, et ça, c'est beau.
Ouais, non, mais il y a des petits clins d'œil qui sont sympas à la thématique, quoi. Ça, ouais, faut bien l'avouer. Et le style steampunk, pardon. On le voit vite en regardant le plateau.
Ouais. Ok. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Mathieu. Non, on a fait le tour.
Ouais.
Ok.
Ok. Ben merci à et vous deux. Bien.
Et bah merci puis, à vous.
Bah, bonne nuit.
Merci.
Bah, salut. Oui. Salut. Pas tout de suite, on va continuer. Ciao. Madeira.
Vous allez faire un tricarion jusqu'à demain soir.
Ah, ils finissent à Madeira, ils n'en ont plus que pour 2 heures. Là.
C'est ça, il nous reste 2 tours.
Allez, ciao. Courage.
À tout à l'heure.
Salut.
Et nous allons accueillir de nouveau Père Castor. Clore cet épisode spécial billet d'humeur week-end proxy jeu avec un jeu qui n'a pas été joué ce week-end. Alors je sais pas si je vais pouvoir accepter ça.
Il faut en parler.
Voilà.
Alors on a toujours Flavien autour de la table et puis Père Castor qui nous a rejoint à nouveau. Alors vous nous parlez un petit peu de Le Monde est fou.
Le Monde est fou. Un jeu de Chris James, illustré par Paul Drouin et édité chez Le Scorpion Masqué. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Père Castor ?
Bah en fait, c'est un jeu que j'ai découvert en écoutant un épisode de Playtime.
Quel bon podcast !
Voilà, parfait. Tu vois. Comme quand on est ouvert chez Proxy Jeux, hein. On écoute un peu ce qui se passe à côté. Non, en fait, c'est un jeu, il me semble que tu en as parlé dans le bilan ludique 2015.
C'est bien possible, pourtant il n'est pas sorti en 2015, mais j'ai dû en parler en parlant d'Agent Troupe, peut-être.
Ah, c'est fort possible, ouais. Tu avais parlé des jeux dans lesquels. Je ne sais plus quel était le thème abordé, mais c'était toute l'ambiance ou le metagame qu'il peut y avoir autour d'un jeu. Voilà, ouais. Et c'était pendant que tu avais fait un top 10, il me semble.
Ouais, c'est bien possible. Mais je pense que ça a été avec Agent Trouble, parce que je retrouve dans Agent Trouble le même type, un peu de sensation de relation avec les joueurs que dans Le Monde est fou, justement.
Et okay. Bah, du coup, tu m'as donné beaucoup envie de le découvrir. Et bah, du coup, je l'ai acheté et je l'ai amené lors d'une soirée que j'ai fait avec des amis que je vois de temps en temps. Et je me suis dit...
Vous nous expliquez un petit peu en quoi ça consiste ?
Alors, Le Monde est fou... Ça se joue de 3 à 4, disons à partir de 4 quand même, pour que ce soit un peu fun. Jusqu'à,
si t'es 6, c'est bien. Je
pense. Ouais, et même jusqu'à 8, 9, enfin, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a un nombre de joueurs sur la boîte, mais on s'en fout un peu. Et donc, à tour de rôle, il y a un joueur qui va incarner le psy, d'où Le Monde est fou, et qui va sortir de la salle. Et pendant ce temps, pendant qu'il est en dehors, et en dehors de toute écoute, les autres joueurs vont être donc les patients et vont choisir sur une carte une pathologie. Alors les pathologies, je peux vous en trouver
mentale,
rapidement.
Alors c'est des troubles psychiques.
Mentales ou pas, hein. Ouais. Voilà, ouais. Je vais vous en trouver quelques-unes. Vous avez peur du sexe opposé.
Attention au spoil. Hein.
Vous croyez vivre dans le futur. Chaque fois que quelqu'un se touche le visage, vous avez soudainement très faim. Je sais pas, l'un d'entre vous croit être une ovule, les autres croient être des spermatozoïdes. Voilà, des trucs assez décalés, disons, qui ont parfois des incidences au niveau des mouvements, des incidences physiques en fait.
Ou alors des phobies, ouais.
Voilà, des phobies, des choses comme ça, ou bien ça va être dans le langage. Donc les joueurs collectivement ou à la majorité vont choisir une des phobies et donc ils vont appeler le psy et le psy va poser des questions et tous les joueurs vont devoir répondre comme s'ils avaient cette phobie. Admettons que je pense être une ovule, et ben je me mets en rond et puis je bouge comme ça et puis, voilà, et puis je me colle un spermatozoïde et après je suis boum 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 comme ça, comme si un bébé naissait par exemple. Et du coup, le psy va poser. Alors,
il va poser une question en fait à chaque joueur. Il va faire le tour.
Le tour de la table.
Voilà. Ouais. Et il va essayer de deviner. Alors, en fait, en fonction du nombre de joueurs, soit il va y avoir un ou deux psys. Donc, généralement, dès qu'on est plus que 6 joueurs, on propose de. Enfin, dans la règle, il est proposé qu'il y ait 2 psys en fait.
D'accord.
Et il va poser en fait une question à chacun des joueurs. Et alors, bien sûr, le joueur va essayer de jouer au mieux le rôle de la pathologie.
C'est un peu roleplay, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça. Alors, il va pouvoir mimer. C'est vraiment un jeu où c'est un pur jeu de communication où il va falloir rentrer dans son rôle. Il va falloir faire un peu de théâtre,
pas,
entre guillemets.
Mais qui n'est pas trop exclu. On reviendra après dessus, mais vas-y, finis.
Ouais.
Et il va devoir, du coup, rentrer dans son rôle et essayer de jouer au mieux la pathologie dont
donc
il est
chaque,
atteint.
Chaque patient est interrogé par le psy, il lui pose une
c'est
question
ça.
À chaque fois.
Alors,
chaque
bien sûr, le patient, il faut pas qu'il réponde de manière trop directive, mais il va falloir qu'il joue au mieux sa pathologie.
C'est vraiment un jeu d'interprétation un peu comme, comme dans Petit Meurtre et Fait Divers. Dans l'absolu, moi je me rappelle même plus de comment on compte les points parce que dans l'absolu on s'en fout. Donc le psy va poser une question à chacun des patients. Une fois qu'il a posé une question à chacun, je pense qu'il y a une limite de temps, mais c'est pareil.
Non, en fait, chaque patient va répondre. Alors il peut répondre en mimant, en répondant à la question. Enfin, il est assez libre. Il faut juste qu'il soit pas trop directif. Sinon, il y a une espèce de levée de bouclier de la part des autres patients qui vont lui dire oh, attention là. Va chez le psy, c'est la petite phrase magique pour lui dire attention, là tu vas trop loin dans...
Et du coup, une fois qu'il a interrogé tous les patients, il peut essayer de deviner la pathologie, ce qui est relativement difficile si les joueurs jouent bien ou encore plus s'ils jouent très mal. Et du coup, une fois qu'il a fait cette première proposition, soit il l'a trouvé, dans ce cas-là c'est cool, soit il peut relancer un deuxième examen des patients.
Ouais, des consultations, quoi.
Voilà, il va avoir 3 minutes en fait, de run où il va pouvoir poser autant de questions qu'il veut à n'importe quel patient.
Dans n'importe quel ordre, avec une durée qu'il choisit. Toi, je te parle pendant une minute, toi pendant 10 secondes, toi pendant 5 secondes, et là, il n'y a plus aucun ordre, c'est l'anarchie totale, pour essayer vraiment de cibler ça. Et donc, une fois qu'il a fait ce deuxième run, pourtant, ce n'est pas Time Stories, une fois qu'il a fait ce deuxième run, il va devoir essayer à nouveau de trouver la pathologie. Est-ce qu'il y a un truc, genre le meilleur interprète ou pas? Je ne sais plus.
En fait, c'est à la fin, les patients en fait vont de manière collégiale définir quel est le patient qui avait été le meilleur acteur en fait.
D'accord,
mais ça c'est juste pour
Le fun. Quoi.
C'est juste pour le fun, voilà.
Ouais, parce que voilà, ça fait partie de ces jeux où on s'en fout des points, où on joue pour le fun et on compte pas on joue jusqu'à ce que chacun en ait arrêté. Moi typiquement c'est dans des week-end jeux ou des trucs, c'est le genre de jeu que je ramène. Il y en a à côté qui font un Agricola, qui font un Caverna, un truc. Et puis finalement il y en a qui commencent à jouer. Et tout le monde se marre tellement que finalement, sur le week-end, tout le monde finit par passer sur le jeu. On avait eu ça avec Link, par exemple. Enfin, c'est vraiment des jeux qui fédèrent, parce que par l'ambiance qu'ils génèrent, ils invitent les gens à y jouer. Et alors, je sais pas toi dans tes parties, mais moi j'ai l'impression, même s'il y a ce facteur communication un peu joué un rôle, je sais pas toi ce que t'en penses au niveau de la timidité des joueurs un peu inhibés.
Alors, c'est sûr que le problème des jeux de communication en général, c'est que ça va dépendre du public auquel tu vas le présenter, et si les personnes sont assez avenantes en fait à pouvoir
est-ce qu'elles vont vraiment bien
est-ce qu'elles vont rentrer dans le rôle, est-ce qu'elles vont être capables de faire des trucs un peu débiles des fois
doser.
Voilà, il faut faire tomber le masque en fait et rentrer dans le rôle et
pour s'amuser.
Voilà, ouais.
Et toi t'as rencontré des problèmes du coup à ce niveau-là?
Non, parce qu'en fait le groupe de personnes à qui je l'ai présenté, bon, c'est pas vraiment des joueurs de jeux de société hardcore, mais c'est des personnes à qui j'avais déjà fait des soirées enquête par exemple, dans lesquelles tu dois rentrer dans un rôle
c'est un public avec lequel t'as déjà fait des choses un peu similaires, quoi.
Voilà, ouais. Alors c'est sûr, les premiers tours les personnes sont forcément un petit peu surprises, mais au bout de plusieurs runs au bout de plusieurs manches, en fait, les personnes rentrent dans leur rôle et c'est assez sympa. Je me souviens par exemple, sans spoiler toutes les phobies qui sont présentes. Je me souviens qu'il y avait une des phobies, c'était les patients ont peur des personnes qui font de la musculation. Je sais plus si c'est le terme exact de la carte, mais alors le premier patient, il commence à parler et il dit que il a des problèmes avec la fonte, par exemple. et le deuxième, il enchaîne, qui disait que quand il regardait les émissions du Club Dorothée, il avait toujours peur des musiciens, donc les musclés. Tu pars dans des délires comme ça développe l'imaginaire et tu te fends la gueule et forcément les psys, enfin le ou les deux psys, ils comprennent pas pourquoi tu te marres autour de la table.
Enfin, mais c'est pas frustrant pour le psy, parce que même si tu trouves pas, enfin c'est franchement c'est difficile à trouver et tu le sais et tu fais ça pour t'éclater et le petit truc c'est de trouver des questions un peu moi je sais que ça m'amuse beaucoup de poser des questions totalement absurdes, genre qu'est-ce que t'aimes bien comme film ou qu'est-ce que t'as mangé, et en fait du coup ça oblige le patient à rentrer dans sa phobie au lieu de dire qu'est-ce que tu fais comme métier ou de quoi tu as peur, des choses comme ça, où finalement tu prends une certaine habitude des réponses et que tu poses des questions vraiment du quotidien et qui n'ont rien à voir avec la phobie.
Parce que les questions sont totalement libres. Bon, bien sûr, tu ne vas pas lui poser comme question c'est quoi ton problème, parce que le patient, il n'en a normalement pas conscience en fait.
Ouais. Mais du coup, les réactions sont super amusantes des fois quand tu poses des questions complètement absurdes. Et Christian Lemay aussi, je ne me rappelle plus c'était quoi la phobie, mais il nous a parlé justement d'une partie à Cannes dont il se rappelait 2 ans après, quoi, parce que c'est vraiment quelqu'un avait fait une pathologie d'une manière totalement phénoménale, quoi, et c'est le genre de jeu en fait tu vas te rappeler d'une partie parce que tu vas te rappeler d'un tel qui a fait comme ça.
Y a des coups d'éclat, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais, et c'est assez magique, et c'est pour ça qu'on essaiera quand même d'en faire une demain, je pense. Du coup, on pourra le mettre dans le podcast, mais c'est vraiment
il sera validé, du coup.
C'est ça, mais c'est vraiment un jeu où où tu te rappelles des parties où tu vis quelque chose ensemble, où il y a vraiment un lien qui se fait, que ce soit... Je pensais... Et
ça va transcender une soirée, en fait.
C'est ça. Et moi, je me rappelle de, justement, Petit Meurtre et Fait Divers, par exemple, où là, si une personne ne rentre pas dans le rôle, la partie, elle est complètement pourrie. Parce qu'en plus, on se sent mal pour elle, parce qu'on sent qu'elle n'est pas à l'aise d'être là. Là, dans le monde des fous, peut y avoir ça. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais.
Bon,
ça
tu sors une bière et c'est bon.
Ou deux,
il ne faut pas inciter l'alcool.
Mais si la personne ne boit pas, c'est plus difficile. Voilà. Mais dans ce cas-là, on ne joue pas avec elle. Mais, non, mais du coup, ça m'est arrivé effectivement d'avoir quelqu'un qui ne savait pas quoi faire ou qui répondait un peu de manière timide, etc. Mais en général, après deux, trois trucs, on se prend au jeu. Et c'est pour ça que je devais en parler peut-être dans le genre de jeu où ça vaut le coup de rejouer avec les mêmes personnes. Parce que tu prends des routines, ou justement tu vas casser les routines, tu vas apprendre à connaître les personnes, et surtout tu vas apprendre à connaître l'autre. C'est le genre de jeu qui rapproche, quoi, qui vraiment qui rapproche plus qu'un jeu à l'allemande ou quoi. Et c'est pour ça que finalement, même dans les fans de gros jeux de gestion ou d'Améritrage qui durent longtemps, tout le monde va passer sur le jeu, quoi.
Bah, typiquement dans la soirée où j'avais amené le jeu, il y avait une personne qui était absolument pas joueuse, qui avait non plus pas participé aux soirées enquête, qui lors de leur première manche elle tombait un petit peu des nues et elle se demandait un petit peu ce qu'elle faisait là, mais au bout de la deuxième et troisième manche, elle était rentrée dans le truc et limite on votait pour elle, comme quoi elle animait le mieux en fait la pathologie qui était décernée par le groupe.
C'est le genre de jeu que si t'as du mal aux deux trois premières parties, comme dans Agent Trouble d'ailleurs. Tu prends des habitudes et finalement ça rentre petit à petit, et comme les parties durent 10 minutes, 5 minutes, c'est vite acquis, quoi.
Ouais, mais tu vois, au final on a peut-être fait 10-12 manches, parce que après on changeait les rôles, enfin on essayait de mixer, je crois qu'on était 10 personnes, donc ça permettait de mixer les psys, on les faisait systématiquement par couple, et ça nous a occupé pendant 2-3 heures, on jouait à ça.
Tu joues pas un jeu de gestion, mais pourtant tu joues aussi longtemps qu'un jeu de gestion. Voilà, c'est tellement bon que tu enchaînes les parties, quoi. Donc là, il y a l'été qui arrive. Typiquement, Agent Trouble l'an dernier, c'était mon jeu de l'été. Là, celui-là, depuis des années qu'il est sorti, moi j'y joue tout le temps avec des gens qui aiment pas, qui aiment pas jouer à des jeux, qui sont pas spécialement joueuses ou joueurs. Et vraiment, voilà, en plus, c'est une toute petite boîte. Là, ils l'ont refait justement. On n'a pas la même boîte avec Percastor. Moi, j'ai la boîte ancien format. Et là, la boîte aimantée qui est nettement plus jolie. Mais c'est une toute petite boîte. Donc, vous l'emmenez dans votre valise. Vous allez avec des potes ou quoi en vacances. Ça vous occupe les vacances, quoi.
Tu sors ça après le barbecue à 10h le soir. Enfin, tu passes une excellente soirée, je dirais.
Une excellente nuit, ouais.
Voilà, ouais. Le matos est minimaliste. En termes de prix, on doit être
à... On est à 11,50€.
Voilà, ouais. Donc...
Ouais, voilà. Bon, au niveau des illustrations, il y a juste l'illustration de couverture. Donc, j'ai dit l'illustrateur, mais sinon, c'est juste des cartes avec 8 pathologies d'un côté de l'autre.
Voilà, il y en a 400 au total. Donc, on a le temps de les écumer.
Et puis après, on peut en inventer. Hein.
Voilà, ouais.
Ouais, d'accord, ok. Oui, en fait, les gens ne sont pas obligés de faire des mimes. En fait, on ne leur impose pas le mode de réponse. Donc, du coup,
alors, quand même, il y a une espèce de logique. Il y a 4 couleurs de pathologie. D'accord. Et il y a quand même un espèce de thème par couleur, quoi.
D'accord, ok. Ouais.
Alors, après, en fonction de la... Si tu veux jouer en...
Tu n'es pas obligé, finalement.
Soit tu peux annoncer au psy, au début de la manche... lui indiquer que la pathologie, ça sera soit une phobie, soit un tic de comportement, soit un type de langage. Enfin,
nous, on l'a jamais fait.
Il y a 4, voilà.
Mais peut-être que, à voir, mais peut-être ça vaudrait le coup d'enregistrer une partie, un de ces 4. Ça peut être très amusant.
Voilà.
Ah, dans ce cas-là, il faudra que ce soit que de...
Avec un concours pour deviner la pathologie, mais ça, si c'est pas génial.
Mon Dieu, mais il est magnifique, il est merveilleux. Ce mec a des idées encore à 2h30 du matin.
Voilà, ouais.
Et avec une Port Williams dans les mains.
Voilà. C'est pour gagner du coup un exemplaire du Monde des Fous, c'est ça?
Bah ouais, allez, c'est lancé.
Voilà.
Donc, faudra voir
qui sera financé par Playtime.
Ah, c'est ça. Mais vous aurez la vieille boîte moche.
Non, mais c'est vraiment un jeu à conseiller. Vous ramenez ça en soirée, ça peut vous transcender vraiment la soirée. Bon, après, bien sûr, comme je disais avant, ça dépend vraiment du public. Il faut, faut faire tomber le masque et...
Oui, il faut quand même que les gens passent
en mode second degré.
D'accord.
Il faut pas avoir peur, entre guillemets, de se ridiculiser, mais je veux dire de rentrer dans son rôle et de...
Okay. Et ouais, c'est conseillé à partir de 10 ans. Finalement, ça doit être jouable moins si on aiguille sur les pathologies.
Ouais, je pense qu'il faut quand même... Il y a certaines... Bon, à ce moment-là, on choisit les pathologies compréhensibles, quoi, sans souci. Ouais.
Et des pathologies peut-être pas trop borderline aussi, quoi.
Ouais, aussi, ça peut être drôle.
Ouais, après, ce qu'on faisait, c'est qu'on tirait une carte et on regardait quelles étaient les 8 pathologies disponibles sur la carte, recto-verso. Bon, si ça nous inspirait pas trop, on en tirait une suivante, je veux dire,
On n'allait pas se contraindre à jouer un truc, parce qu'il y en a certaines qui ça demande quand même pas mal d'imagination.
Et puis, il y en a des moins intéressantes que d'autres quand même, faut le dire. Tu te dis bon, ok.
Oui, c'est pas forcément équilibré, j'imagine. Hein. Mais du coup, il y en a un peu pour tous les goûts.
Ouais, il y en a quand même 400, donc il y a 200 cartes. Recto verso, ça fait 400 pathologies.
200 cartes ?
100 cartes, du coup.
Non, 100
cartes.
Parce que sinon, ça fait 800.
Ah oui, absolument. j'ai pas révisé ma table de multiplication.
Ok, il y a 50 cartes troubles, il y a 400 troubles. C'est ce que dit Philibert.
50 cartes
troubles.
Ah oui, mais d'accord, donc il y a un recto verso.
Ah, c'est recto verso. Ouais.
Non, 50. Si, 50 x 8.
Et puis, même pour jouer les.
Ah, ça y est, c'est plus compté, c'est bon.
50 x 8, 400, c'est bon.
Voilà. Et puis, même pour jouer les psys, il ne faut pas avoir peur parce que dans la boîte, on a des questions d'exemple avec lesquelles on peut démarrer.
Comme dans Agent Trouble, ça aussi. Hein.
Ouais. Et du coup, on peut toujours entamer par ces questions d'exemple qui permettent de donner une piste et ça donne les premiers éléments par le premier patient et ensuite enchaîner vers des questions plus ouvertes ou plus directives. Sachant qu'on peut reposer la même question à un deuxième patient si jamais on veut tester la véracité de ses propos. Ou...
non, parce que éventuellement une autre réponse. Quoi.
Ouais, parce qu'en fait, des fois, il y a des pathologies assez spéciales. Donc, soit tous les patients ont la même pathologie. Mais des fois, tu peux avoir des pathologies partagées. Je me souviens par exemple.
Vous avez vu les spermatozoïdes.
Voilà. Je crois que j'avais eu la même pathologie, mais c'était avec la moitié des personnes croient être les enfants des parents des autres. Oh. Alors tu commences à poser des questions.
C'est le grand mindfuck.
Voilà. C'est.
Et effectivement, là, t'as des réponses un peu différentes potentiellement. Ouais.
Voilà, ouais. Donc, okay. D'où l'intérêt de pouvoir reposer la même question à un autre patient.
Ok, très bien. Bah, merci à vous deux pour la présentation d'Agent Trouble.
Le monde est fou.
Voilà, du monde est fou.
Donc, à sortir après un barbecue.
Ou une raclette.
Voilà.
Bon, ben bah, voilà. C'est la fin de ce petit épisode spécial. Un grand merci à Flavien de nous avoir accompagnés ce week-end et de nous avoir accompagnés lors de ce podcast.
Bah, merci à vous, c'était cool. Et puis, ça change le son, c'est bien.
Voilà. Merci à toi, Père Castor.
Bah, merci.
On dit pas merci à ceux qui sont passés avant, ils avaient qu'à être là.
Non, bah, on leur a déjà dit merci.
Il n'y avait pas assez de micro.
Mais c'était faux, c'était faux.
Alors, n'oubliez pas que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant des commentaires sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également aller écouter Playtime pour retrouver Flavien. Pensez à nous noter sur iTunes, mettez des commentaires. On a dit qu'on allait trouver un chat à sacrifier. On n'a pas de commentaires pour le prochain.
Un enfant.
Ok, Flavien va nous fournir un enfant.
Voilà, il a un bon stock.
Et puis, en attendant, la prochaine émission...
Jouez bien.
T'as des jolies courbes.
Ah. Mmh. Alors moi, il faut que je parle en direct parce qu'il touche le bouton. Et a priori, c'est mon bouton. Arrête de toucher mon bouton. Ça me gêne en public.
Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes le 7 mai 2016. Vous écoutez le 76e épisode de Proxy Jeux.
Et on est le 8 mai.
Techniquement, on est le 8 mai.